Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut cher LM Crado, c'est Alix. Comme cette douce musique te l'annonce, le LMK de cette semaine est sponsorisé. Et j'en suis ravie car c'est le distributeur de cinéma Le Pacte qui nous fait cet honneur. Et toi-même tu le sais, le cinéma c'est ma passion. Je vais donc te parler en long, en large et en travers d'un film que j'ai adoré, qui s'appelle La fille au bracelet et qui est sorti le 12 février au cinéma. Je te laisse donc découvrir pourquoi je l'ai tant aimé dans le podcast. Merci au Pacte de nous soutenir et bon épisode.
Propulsé par mademoiselle.com.
Ah ouais? Okay.
Oh, ça swing.
Yes. Je sais pas pourquoi c'est parti si aigu, mais
moi je suis
désolée.
Moi je follow, tu sais.
Bonsoir, bonsoir, cher LM Crado, et bienvenue dans l'épisode 78 de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression, la pistache des podcasts. Voilà, c'est tout.
Oui, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
C'est beaucoup d'adjectifs pour un seul podcast.
Pour un seul podcast.
Faut qu'on prépare un truc pour l'épisode 100.
Ouais,
je me
ouais.
dis, on y arrive tranquillement là, quand même, déjà 78.
Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tous partager notre groupe sanguin.
Qu'est-ce qu'il a raconté?
D'accord.
Mais c'est bizarre que ce soit ça qui vienne.
Et c'est ça qui te vient à l'esprit en premier.
Ça a été immédiat. Comme
c'est
vanne.
Incroyable.
Ouais. Non mais je sais, je suis vive, on
ça
me le dit souvent.
Dans ta tête.
Je suis vive, on me le dit souvent. Déjà, c'est un bon titre d'épisode.
Envoyez-nous vos
Alix, j'ai trouvé le chien qui lui va le mieux. Et c'est le chien, mais je sais pas comment il s'appelle. C'est un collet. C'est un collet à trois couleurs, je crois. Et en fait, quand vous le voyez, il y a une photo sur Google, si vous tapez collet, trois couleurs, vent,
et ben, je
vous
le
trouvez,
dans
vous
les
trouvez
notes de
un chien, crinière dans le vent, on dirait Alix. Il a le même air heureux et les mêmes nuances dans les cheveux.
Qu'un jour, tu trouveras mon chien.
Ah ben, je vais m'y atteler dès ce soir.
Très bien.
Eh bien, comme vous l'avez peut-être remarqué, cher LM Crado, nous sommes en présence de la brigade du kiff. Ce soir,
pan, complet, 4 sur 4,
avec Mimi,
salut,
allez, salut,
4 sur 4,
Charline Durampfel,
et bonjour,
j'adore ta nouvelle manière de dire bonjour de façon super désagréable,
ouais, moi aussi j'aime bien,
cette attitude de comme si t'avais pas envie d'être là, c'est fun, hein,
alors que je suis si contente,
c'est clair.
Et Cédric
Proposé,
t'es là, on est là ou pas? On est là.
Faut me gêner de A à Z.
Pour remuer ton terre-terre.
Je pense que j'avais l'air de ça quand je faisais de la danse hip-hop à 12 ans et que j'avais pas de flow.
Mais c'est de la capoeira.
Capoeira, c'était un peu plus tard. J'avais plus de flow en capoeira qu'en hip-hop.
C'est vrai?
Ça avait tu.
C'est dingue.
Ouais.
Kidnapping.
J'en ai pas beaucoup, pas mais comme j'étais en négatif en hip-hop, c'était déjà plus.
Ça implique pas la voix, la capoeira, on est d'accord, t'avais du flow.
Non, mais la danse
pieds.
Hip-hop, ça implique pas la voix. Je posais mais un flow corporel, tu vois.
C'est exact.
Un flow corporel. Rappez pas.
Et il y a aussi, bien sûr, Alix Martino, comme vous
oui,
avez tous
Alix
vu, le remarqué.
As-tu fait voilà, des danses urbaines, Alix Martino, dans ta vie?
Non, mais je sais que mon frère et ma sœur font du hip-hop. Mais en fait, je voulais...
Dommage, tu le sais.
Dans ce podcast. C'est bien que tu le saches. Je sais que mes frères et sœurs.
Voilà. Mais non, mais en fait, je voulais rebondir sur le fait que eux aussi, tu vois, font du hip-hop, mais comme ils en font très bien, je voulais pas non plus te voilà,
non,
te mettre la honte.
Non, mais je me suis mise toute seule dans le piège, ouais.
C'est clair, t'es rentrée dans le cercle avec pas
et
assez de...
Tu sais peut-être pas danser le hip-hop, mais tu as longtemps pratiqué des danses, n'est-ce pas?
Ah bon? Parle-nous de ça.
J'ai
Alix
l'impression
Martino.
Qu'on rencontre la belle famille et qu'on lance des sujets de conversation pour que ce soit pas un silence gênant.
Le meilleur lancement de ma vie. Tu as pratiqué des danses? Alors, j'ai pratiqué longtemps donc la danse classique, la danse contemporaine, la modern jazz ainsi que la comédie musicale. J'ai aussi fait du cheerleading et j'ai voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait
plus,
comme danse.
Ah ouais.
Le poney, plus le tennis, plus l'athlétisme, plus
le théâtre. Mais... voilà. C'était toutes mes activités extrascolaires. C'est depuis
et maintenant,
ce jour-là.
Tu recherches des fils sur Instagram le dimanche après. Ah la vache.
J'allais dire, aucune de ces activités finalement ne t'a mené à un métier. C'est
non,
fou.
Pas du tout.
Mais peut-être un jour mais tu danseras si... sur un cheval.
Ouais, c'est ça, peut-être.
Je
le cirque Alex Martino, c'est ça ton futur.
Alex Martino.
Chaque deux ans, je vais voir le spectacle de Bartabas, qui est donc un gars qui fait depuis des années des spectacles de chevaux avec ses chevaux et en fait dont tout le monde croit qu'il est d'origine de Roumanie et tout, alors qu'en fait il vient de Neuilly. Bon bref.
Et regarde-toi, tu viens de Levallois et d'ailleurs.
C'est et ça. D'ailleurs, c'est vrai.
C'est possible.
Tout chez moi me rappelle que je viens d'ailleurs. Et et pourquoi je raconte ça, Bartabas? Et en fait, à chaque fois que je vais voir ces spectacles, c'est génial. Donc, il y a plein de voltigeurs comme ça sur chevaux. C'est très, très beau. Voilà, c'était une petite aparté. Ah, n'hésitez pas si vous êtes...
Incroyable ce lancement de podcast. Allez,
c'est, bon. C'est quand même une fois, moi, je suis allée au Puy du Fou.
Quelle connasse.
Bon, écoutez, est-ce que vous avez des commentaires? Alors, j'ai pas un commentaire en particulier, mais j'ai plein de gens qui m'ont dit merci d'avoir parlé du fait de lire des livres aux gens qu'on aime. Ah. Parce que c'est vrai que tout le monde trouve ça bizarre, mais en vrai, c'est trop bien. Donc, j'ai appris que nous sommes au moins 12. Ah. Et, car j'ai énormément de DM, tu le sais. Et du coup, bah, ça m'a fait plaisir de voir que plein de gens se reconnaissaient dans ce qui était là. Ah oui, moi aussi, j'aime bien. Voilà.
Mais ça m'étonne pas, c'était un très bon kiff.
Ouais, de ouf.
Bravo,
c'était
Mimi.
Trop bien. Ah. Moi, j'ai eu des fleuves de commentaires de gens qui me disaient que la narration non linéaire, c'était génial, que c'était leur passion depuis longtemps.
Est-ce que t'en fais des commentaires non linéaires pour te dire?
Et oui, ouais, ouais, tout à fait. Ils ont fait un travail extraordinaire.
Mais quelle arnaque!
Mais vraiment, c'est des centaines de milliers de messages. Du coup, j'ai pas encore pu tout lire. Voilà, merci à vous tous.
J'avais oublié que c'était ça ton kiff la dernière fois.
Exactement, ouais, tout à fait.
Je pense qu'on était sur une forme de long soupir de ta part qui a duré jusqu'à la fin de l'épisode.
Il y a quelqu'un qui nous a dit merci, merci d'être gentil.
C'est et oui, c'est le meilleur commentaire.
Vous êtes très fort. Léo Simon, merci beaucoup. Il nous a dit qu'il était, il nous trouvait bien et puis qu'il avait bien aimé. Il avait découvert l'ISO dans un ancien LMK et c'est un de ses albums préférés. On est content.
On adore super. L'ISO, on l'embrasse. Ouais. Et elle, pas du tout. Elle est là, c'était. Bon, bref, tu comprends. C'est à la fois la fin de journée et pas assez la fin de journée. On tourne sur LMK bizarre, une heure plus tard, plus tôt que d'habitude.
À cause
donc
du
il est 17h. Donc il y a.
Ça passera
ouais,
en mars.
Je vais pas finir cette explication, donc globalement on se fout. Mais voilà, sachez qu'on est dans un mood un peu genre semi-travail, semi-podcast, alors que d'habitude
c'est
on est full podcast.
C'est très étrange. Et bien écoutez, des j'ai quand même un. Oui, t'as des commentaires, Kalini?
J'ai pas cherché, j'ai pas regardé, non, pardon.
Très bien,
super. Mais la merci. Prochaine fois, je le ferai en amont.
Super, merci beaucoup. Et bien moi, écoutez, j'ai un. Écoutez, j'ai un commentaire. Vous souvenez-vous de la dédicace du LMK Rock de la dernière fois non. Où j'avais dit une phrase en latin et puis j'avais fait croire que j'avais compris. Eh bien, jokes on me, la rose.
Je croyais que c'était du latin aussi, j'étais là quoi.
C'est l'arroseur arrosé puisque c'était de l'italien. Voilà.
Oh ah, bah en même temps, entre le latin et l'italien, tu vois, c'est juste, il y a deux millénaires de différence, quoi.
C'est ça, en fait, c'est juste du jeune latin, quoi. Du latin un peu hip-hop.
un peu
pour les jeunes.
On cautionne pas tout, hein, ce qu'elle. L'italien,
voilà,
c'est le hip-hop du latin, quoi. C'est vraiment ça, c'est pas mal en vrai, j'aime bien.
Je tiens à m'excuser auprès de tous les LM Crado que j'ai enduit d'erreur.
Enduit d'erreur. Ils étaient là et toi t'es venu fait tiens je vais t'enduire plein d'erreurs. Exactement. Partout.
Voilà. Sinon ah oui j'ai une vie de bolos à vous raconter.
Ma passion.
Bolos.
Salut. Donc c'est Léane.
Salut Léane.
Salut Léane.
Bonjour Léane.
Hi Léane.
T'as pris ta voix FIP et tu le sais.
Salut Léane.
Je t'envoie ma vie de bolos qui date de maintenant quelques années. Un samedi, je décide de faire une machine avec mes habits de sport, c'est-à-dire une machine ne contenant que des affaires à moi. Je prends la lessive liquide et je la verse dans le compartiment, je lance la machine et je monte à l'étage. Quelques minutes plus tard, je vois mon père avec la lessive liquide dans les mains se diriger vers le garage et je lui demande ce qu'il fait. Il m'explique alors qu'il a vidé l'huile de la friteuse dans cette bouteille de lessive liquide vide et qu'il la met au garage pour qu'on ne se trompe pas en lançant une lessive.
Meilleure idée, papa.
Je cours donc vers la machine et je me rends compte que mes habits de sport sont en train d'être lavés à l'huile de friteuse.
Ils sont enduits d'erreur finalement.
Ouais.
C'est ça, enduits d'erreur. La machine était déjà remplie d'eau. Pas moyen de stopper le programme que je n'ai plus
et je n'ai pu que regarder pendant 1h30 mes habits tournés dans l'huile.
Mais surtout qu'on sait que qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école ? L'eau et l'huile
ne se mélangent pas.
Non mais il y a un terme,
ils sont non miscibles.
Ils ne sont pas miscibles. Ne peut J'ai retenu
pas
ça.
Miscible.
Et incroyable, le sulfate de cuivre déshydraté. Ah. Et les pinces crocodiles, voilà tout ce que j'ai retenu de mes années de sciences physiques.
Ah, super. Une fois quand j'étais petite, j'ai bu de l'huile de friture.
C'est
parce
vrai
que ma daronne l'a stockée au, alors à ma décharge, au frigo dans une bouteille de jus de pomme. C'est la même couleur.
Non mais franchement, attends, c'était un poisson d'avril.
Je pense que c'était un prank. En vrai, il y avait pas YouTube, mais je pense qu'elle voulait qu'on aille à vidéo gag, tu vois. Et du coup, elle était, en plus, elle était là. C'est-à-dire, je lui ai demandé. Elle était là, ou c'était mon daron, je sais plus, en train de faire des comptes ou quoi. Moi, voilà, 4 piges, ou de cop 3 pommes. Je me dis, je vais aller boire du jus de pomme. Du coup, je suis là, mais je peux boire du jus de pomme. Vaguement lever la tête. Oui, bois du jus de pomme si tu veux. C'était de l'huile de friture usagée.
Non.
C'est dégueulasse. Ne faites pas ça chez vous. Voilà.
C'est dégueulasse.
C'est pas mortel.
Est-ce que
c'est
dégueulasse? T'as dû y aller, mais... genre. Ouais. Trop, genre. Ah, glou, glou, glou.
Tu sais, quand t'es gamin, là, le jus de pomme, tu le kiffes tellement. Ouais. C'est vraiment genre un truc, il est frais et tout. Peut-être j'avais joué dehors, je sais plus, aucun souvenir. Bam. La trahison.
Putain, c'est
là que j'ai compris qu'à la fin, on meurt. Mmh. Voilà.
Moi, j'ai un ami Clément qui a bu du jus de. Qui a bu de l'huile d'olive. En grosse quantité une fois et
pourquoi
mais tu sais que ça m'est arrivé une fois
et on l'embrasse
parce que c'est un con, il avait voulu faire son intéressant, je me rappelle très bien, et donc il a bu une grande tasse d'huile d'olive et il a eu, en fait ce qui était marrant c'est qu'après il a eu la coulante pendant une bonne semaine.
Mais moi ça m'avait fait ça une fois parce que, alors faut que vous sachiez, j'ai une passion pour l'huile d'olive qui est forte. Donc je mets de l'huile d'olive dans le fond de mon assiette et je trempe mon pain dedans je peux manger ça voilà très longtemps.
Trop longtemps peut-être.
Je peux même carrément mettre de l'huile d'olive directement sur le pain. Enfin voilà, j'adore ça et un jour j'en ai trop bu donc j'ai eu très mal au ventre. Voilà, c'était la fin de cette anecdote.
Que de belles histoires.
Le podcast de la digestion. C'est super.
Je crois qu'on dit la courante et pas la coulante parce que c'est vachement moins dégueulasse.
Je voulais pas la reprendre. Je me suis dit ça va faire la meuf et tout. Merci.
La coulante c'est vraiment immonde.
J'aurais dû dire les déclichettes. Au moins je me serais pas gouré.
Je vous propose de continuer avec LMK Rock et d'écouter la dédicace audio du jour.
Yes.
Salut la team, je voudrais faire une dédicace à ma poteau Xaxou alias Patou alias Patoche pour ceux qui savent. J'ai trop hâte qu'on bosse ensemble et qu'on aille chasser du dinosaure sur les plans ensemble. T'inquiète pas, on va devenir les meufs les plus badass du sound system. On va faire une team et ça va être incroyable. Complètement zinzin. Je te fais un bisou.
Oh, trop mignon, trop cool.
Incroyable.
Trop chou.
Ce que je peux faire, j'ai deux LMK Rock à faire, je peux les faire?
Ah, bien sûr.
La première, en fait, à midi, aujourd'hui, le jour où on enregistre, c'est-à-dire le jeudi 6 février, on était en train de déjeuner avec Marie Vrigno, de l'autre équipe de la team sucré salé de LMK.
Ah, tu mixes les équipes, toi, Mimi?
Oui, voilà. Comme ça, tu vois, je suis pas sectaire. À Roomies, qui est un restaurant de burger dans la rue du bureau, et en partant, il y a deux petites meufs, genre, je pense, collège-lycée, qui nous arrêtent et qui font « Vous travaillez à Mademoiselle, on aime trop Laisse-moi kiffer !» Et du coup, j'étais là « Oui, on travaille à Mademoiselle, c'est Marie de Laisse-moi kiffer !» Elles étaient « Ah bah oui, on sait !» Et trop mimes. Et en fait, elles étaient en voyage scolaire, elles sont suisses. Et du coup, elles repartent demain, donc elles ne pourront pas venir déjeuner. Et j'ai oublié de leur demander leur prénom, car j'étais déboussolée par cette interaction inattendue. Et du coup, je voulais dire « Merci beaucoup d'écouter LMK, et revenez nous voir quand vous repassez à Paris. Merci la Suisse !»
Merci la Suisse.
Peut-être qu'elles n'écoutent pas la brigade du kiff, hein. Vous écoutez peut-être que.
Eh ben, elles sauront jamais qu'elles ont eu une dédicace. Ouais.
Il faut écouter toutes les équipes, les.
Cela dit, je pense qu'elles écoutent parce que c'est moi qu'elles ont reconnu en premier. Et la deuxième, c'est pas vraiment une LMK Rock, j'ai menti. Mais je voulais faire un big up à tous les gens qui ont écouté Game of Thrones grâce à LMK. Après, je vais arrêter de parler de Game of Thrones. Mais ils ont sorti leur Ulule, donc leur financement participatif pour faire un jeu de rôle papier Game of Thrones. Et ils ont éclaté le record français de Ulule. Ils en sont à 200 000 euros déjà en quelques jours alors qu'ils avaient besoin de 15 000 euros. Ils ont atteint les 15 000 euros avant que ce soit officiellement ouvert. Enfin, c'est un délire le succès que ça a. Et c'est en bonne partie parce que plein de LM Crado ont genre soutenu Game of Thrones et écouté Game of Thrones et découvert Game of Thrones. Du coup, je suis contente.
Bravo.
La propagande a fonctionné.
C'est trop bien. Mais moi, j'ai une vraie question. Bien. Quand on donne beaucoup plus d'argent que ce que les gens ont réclamé, il va où cet argent?
En fait,
à faire.
Il permet de développer soit plus, soit d'en imprimer plus par exemple, soit de faire des coffrets collecteurs, soit de faire des figurines en plus. En fait, t'as des paliers. Il faut au moins 15 000 euros pour que le projet soit financé, c'est-à-dire le livre il existe et les gens sont payés qui ont participé à l'illustration, l'écriture et tout. Et après, bah plus tu rajoutes, plus t'as des paliers avec si on atteint 100 000 euros, il y a ça. Si on atteint 200 000 euros, il y a ça. Mm-hmm. Tu vois, ça peut être. Bah,
c'est
si
pas
on
juste
atteint 300.
Coup, ils récupèrent l'argent des gens et se les mettent dans les poches, quoi.
Non, mais cela dit, j'imagine qu'à la fin, s'ils gagnent entre gagner 15 000 ou du coup tout va aller dans la prod et gagner 400 000, bah probablement qu'ils vont gagner plus d'argent, mais en même temps, il y a plein de gens qui leur ont donné de l'argent, donc ouais, trop tant mieux. Mais je ne suis pas 100% au fait de comment marche le financement participatif, donc peut-être que je dis à moitié des conneries.
Ils ont fait une Karim Debbache, comme on dit dans le jargon du crowdfunding.
Tout à fait, tout à fait.
Et qui est-ce Karim?
Karim Debbache qui faisait
attends, je suis
Crust.
Plus choquée que toi, tu connaisses Karim Debbache parce que tu regardes aucune vidéo sur internet.
Mais Karim Debbache, c'était le seul youtubeur que j'ai regardé. Et
ah
que
oui, d'accord, elle me dit
boucle.
Quoi alors que c'est le seul qu'elle connaît, quoi.
Et en fait, il avait une émission il y a fort longtemps sur jeuxvideo.com où il faisait des chroniques cinéma de films qui se rapprochaient ou qui traitaient de jeux vidéo, qui était très marrant.
Même ça, je regardais.
Ouais, mais parce qu'il est fort, hein, le gars. Et après, avec son équipe, ils avaient lancé un Ulule aussi pour un truc, puisqu'il était parti de jeuxvideo.com. Ils avaient lancé une collecte pour un crowdfunding pour récupérer des sous pour faire une deuxième saison qui allait plus loin, plus fort, plus machin. Et pareil, il demandait, je sais plus, 40 000 balles et il a fini avec 300 ou 400 000 balles, beaucoup d'argent. Et donc, du coup, la saison de Chroma, donc 26 épisodes de cette série qui s'appelle Chroma, elle était complètement dingo avec de la prod dans tous les sens, des grosses lumières.
C'était assez de la narration non linéaire.
D'où effectivement encore, oui. Car tout se relie dans ce monde incroyable. Non-linearity narration.
Voilà, c'était ma dédicace à LMK Rock aux gens qui aiment les Game of Thrones.
Yes.
Bravo.
Bravo les Game of Thrones.
Bravo les Game of Thrones. Les Game of Thrones.
Tiger. Mr. Lamb.
Stop. Stop. On va pas faire un shout-out à toute l'équipe, ça va être long.
Gêne de A à Z chaque minute.
D-A-Z.
Alix, enchaîne, sauve-nous, s'il te plaît. C'est toi l'animatrice. C'est toi.
Allez, on passe au mini-kiff.
Oui.
Vous êtes prêts pour le jingle, puisqu'il n'y a toujours pas de jingle qui m'ont été envoyés. Pitié, 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 envoyez le jingle.
Sinon, vous devez supporter nos voix et nos mélodies approximatives.
Exactement, l'adresse mail est simple. C'est laisse-moi kiffer at mademoiselle.com. Voilà.
C'est une vraie adresse.
On peut pas dire que c'est ça, ouais, le jingle, c'est bien, et c'est ça. Bon, on l'a fait.
Vous trouvez que c'était un bon jingle,
ça? C'est pas un jingle, ça.
Merci Kalindi d'avoir lancé ce jingle incroyable. Eh bien, on va commencer avec Cédric pour le mini-kiff.
Ah ouais, direct sous le...
Ouais.
Ça fait 2 ans que tu fais ce podcast, mec, sois pas intimidé, genre, c'est à moi.
Ok, ah,
c'est toujours génie gêné.
D'accord, très bien. Alors, je vais vous parler de, d'un film en fait, d'un film que j'ai bien aimé, qui est
c'est fou. Je comprends pas la tête d'Alix. Alix, elle a une tête.
Ah non, c'est un film de merde. C'est Docteur.
Est-ce que vous avez préparé un sketch?
Non. C'est Docteur Dolittle.
On a une zone. Non, c'est pas Docteur Dolittle. Mais non, c'est un film qui est sorti, je sais plus, il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est Nicky Larson. Bah ouais.
De Patrick Lachaud, là, machin.
Bah ouais.
Waouh.
En fait, je m'attendais pas et j'ai trop kiffé. Ah, c'était complètement con.
Non, mais peut-être. Alors raconte, du coup, c'est quoi Nicky Larson? C'est qui c'est?
Et en fait, et donc du coup, Nicky Larson, évidemment, hein, c'est un kiff de Cédric, donc ça vient d'un manga japonais.
Enfin, 80.
Qui s'appelait City Hunter, publié et qui est devenu Nicky Larson, la série animée du Club Dorothée dans les années 90, me semble-t-il. Et qui passait avec toutes les grandes séries du Club Dorothée, les Ranma 1/2, les Ken le Survivant et tout le bordel. La pension des Mimosas, c'était quoi ça? La pension des Mimosas.
Personne n'a connu le Mimosas, tu sais.
Non, en vrai, j'ai Nicky Larson, j'ai regardé à la télé, mais j'ai pas le reste.
Voilà. Et en fait, Nicky Larson, c'est quand même resté, je pense, un des personnages un peu iconiques du Club Dorothée. Il avait ce côté un peu genre couillon et sérieux. Et quand il faisait un peu son beau gosse, tout ça, ça marchait assez bien. Il était quand même assez charismatique, malgré un niveau de couillonnade assez assez énormissime. Et donc, en fait, quand le film est sorti, il y a 1 an et demi, j'étais genre,
vraiment, sounds like a bad idea, j'ai pas envie de voir ça, et je n'y suis pas allée au cinéma.
Parce que c'est un film français avec des acteurs français.
Film français.
Par la bande à Fifi, c'est comme ça qu'il s'appelle.
Par la bande à Philippe Lachaud, donc il y avait fait Babysitter, ouais. Babysitter 2, Alibi, je crois.
Alibi.com.
Donc des choses.
Humour potache.
Voilà, humour potache. Tout à fait.
Mais cela dit, Nicky Larson aussi.
Et du coup, en fait, c'est là où, incroyablement, ça marche. Parce que Nicky Larson, hein, quand même, si on se souvient, c'était pas non plus, on était pas, c'était pas les Monty Python en termes de finesse. Et de c'est pas très fin
les
d'ailleurs,
Monty
les
Python,
Monty Python.
Pas... Oui, c'était pareil, genre.
C'est clair.
Faudrait que je les revoie parce que j'ai pas souvenir de.
Donc, ce film commence. Et donc, il y a un petit peu, genre, les 10 premières minutes où ça se passe dans une espèce de clinique de chirurgie esthétique. Et tout d'un coup, t'as Nicky Larson et Mahmoud qui sortent d'une porte et qui se bagarrent. Et donc, t'as pas mal de blagues un peu potaches à base de... Il y a un flingue qui s'envole, qui tombe sur un mec qui est au milieu, qui est endormi pour sa chirurgie esthétique. À un moment, ils se bagarrent et puis ils essayent tous les deux d'attraper le flingue. À la place du flingue, il y en a un des deux qui attrape la bite du mec.
Donc, ah, on est... Une première minute blague bite,
voilà,
là, on est
sur
bien.
Ce premier... Voilà, blague on est aussi bite. Sur ce niveau d'humour... Après, bah, franchement, moi ça me va. Moi ça me fait marrer.
On est toutes les trois fans de Fatal, donc on peut pas non plus trop faire les meufs. Quoi.
Moi ça me fait marrer. Et après, en fait, dès passer un petit peu ce premier moment, n'importe quoi, ça retourne vraiment. Et c'est ça qui est assez rigolo, c'est que ça retourne vraiment à la fois dans l'univers de Nicky Larson, mais façon manga du Club Dorothée des années 90. Parce qu'en fait, à la base, c'est un truc ultra sérieux au Japon et tout ça. Enfin, avec vraiment des gros dramas. Arrivé en France, les doubleurs, ils ont fait on va faire des voix comme ça et on va, les méchants, ils vont dire qu'ils vont faire Bobo ou Nicky Larson. Et c'est devenu un truc ultra, genre, complètement absurde.
Ah ouais.
Mais qui est devenu un vrai produit ultra marrant en soi. Parce que les doubleurs, ils faisaient n'importe quoi.
Ah, c'est drôle ça.
À l'époque, il y avait peu de respect de la propriété intellectuelle.
Ah,
c'était une grande liberté.
Ah ouais, c'est non, drôle. C'était ouf. Et donc, c'est l'histoire de Nicky Larson, qui est un ancien flic, qui est plus ou moins, je ne sais pas, mercenaire un peu, pas mercenaire, il résout des
enquêtes. J'avais 8 ans, donc ne me demande pas des détails, il me regarde, genre, tu confirmes, Mimi, ouais. Je suis là, je me souviens qu'une meuf qui voulait Ken avait un gros marteau qu'elle sortait pour lui taper dessus.
C'est Laura.
Et en même temps, j'ai un peu l'impression qu'elle est de sa famille, donc je suis là, c'est chelou qu'il la harcèle sexuellement tout le temps. Mais bon.
Non, donc en fait, 90, c'est genre la seule meuf qui veut pas Ken, et elle vit avec lui, et c'est Laura, c'est la petite sœur de son ancien collègue qui s'est fait buter des années avant, et il a juré de prendre soin d'elle. Et dans l'histoire un peu de Nicky Larson, il y a quand même une sorte d'histoire d'amour entre deux, mais qui est un non-dit, tu vois, ils se disent jamais. Qui se kiffe, et donc du coup lui il passe son temps à Zarma draguer toutes les meufs de la terre entière.
Zarma draguer,
mais en vrai celle qui porte vraiment dans son cœur c'est Laura, et ainsi de suite, blabla. Et donc en fait ce qui est trop marrant, c'est que dans le film, Philippe Lachaud il reprend vraiment tout l'univers de Nicky Larson, un peu du manga, vraiment le côté sérieux, les costumes, tout ça machin, les relations, la relation avec Laura, et puis vraiment le côté un peu sérieux justement de leur histoire à eux, qui est pas clair, qui a un gros non-dit. Et en même temps, il reprend tout le côté ultra loufoque pété de ce que le Club Dorothée en avait fait, de ce que les doubleurs en avaient fait. Et c'est en vrai une ode à tout.
Une ode?
Une ode, O-D-E-X.
Oh ouais.
à tout l'univers, en fait, du Club Do de l'époque. T'as
Du Club Do.
Et t'as Dorothée qui joue dans une scène.
En spirale devant le gif de Cédric.
T'as une scène avec Dorothée, t'as plein de références à la con, justement, à tous les autres dessins animés qui passaient à l'époque. Genre, à un moment, il est dans un bar, il l'appelle la serveuse, il dit « Ranma, un demi, s'il te plaît ». C'est complètement con. Mais en fait, tous ces petits trucs-là, comme ils sont...
Parce qu'il y a un autre anime Ranma japonais qui s'appelle Ranma, un demi.
C'est en train de ressortir en manga.
Ranma, un demi. Tu l'as?
D'accord.
Qui commande un demi.
Ouais, je l'ai.
Elle s'appelle Ranma. Ranma, un demi. Tu l'as? On l'a. Tout le monde l'a.
Yes.
Mais donc, attends, ouais, j'ai juste une question. Pourquoi ça s'appelle le Club Dorothée?
Bah parce que c'était Dorothée qui animait le truc, et donc c'était devenu le Club Dorothée.
Mais qui animait quoi? C'est pas juste des dessins animés?
Non, t'avais aussi les moments les plus gênants de l'histoire de la télévision française. quand Dorothée, Ariane et Corbier, Patrick, enfin les trois gars, faisaient des jeux et parlaient avec les enfants. Dorothée, elle faisait des chansons. En fait, le mercredi après, t'avais un gros live à leur studio dans le 93, là. Où ils invitaient, je sais pas, genre 300 mômes, t'avais un espèce de petit show à l'américaine en mode télévisé et tout. T'avais
t'étais amoureux d'elle
tout,
ou pas,
quoi.
Toi aussi?
Non, j'étais amoureux de Anne, qui chantait la chanson de Oliver et compagnie. Vous avez toute la ref. Alors là.
Pas du tout.
Oliver, tu n'as pas peur. Les embruches et les embrouilles, tu les connais par cœur.
Voilà.
Ah.
Elle a disparu complètement du monde médiatique il y a fort longtemps.
Est-ce qu'un jour t'auras un kiff d'après 2000?
Bah attends, la dernière fois j'ai vu, c'est clair.
Ah oui.
Bah en vrai, Nicky Larson, c'est après 2000.
Le film est donc sorti il y a un an et demi.
On aurait quand même longtemps parlé du Club Dorothée.
Oui. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu, ça fait un peu partie du film, le côté très couillon, loufoque du machin. Et je trouve qu'en fait, ce qui est intéressant dedans, c'est que en partant d'un truc japonais inadaptable en France, il l'a adapté à la façon dont des doubleurs l'avaient adapté il y a 20 ans.
Ah oui, donc
et
c'est malin.
En fait, il en fait un truc ultra bien. C'est-à-dire qu'en vrai, ce film-là, si t'aimais Nicky Larson, le dessin animé, tu peux. Enfin, vraiment, c'est la même chose en film. C'est que ça respecte tous les codes. Il le fait, je pense, avec un vrai amour en plus du film originel. Il termine même le film sur la même petite musique qui est à la fin de chacun des épisodes de Nicky Larson. Et il y a des moments, il y a quelques petites scènes là qui sont assez intéressantes en termes d'action, parce que c'est vraiment pour le coup assez bien filmé. Et t'as un espèce de morceau de bravoure au milieu du film, en bagarre, en caméra subjective, avec c'est dans une casse, et t'as un gros aimant, c'est le truc qui aspire les voitures qui est là, et donc t'as tous les mecs qui sont là en train de se bagarrer avec des tuyaux en plomb, des pistolets, tout ça, et donc c'est un gros plan séquence qui doit durer 5-6 minutes, enfin un faux plan séquence, toutes les deux minutes là, il appuie... La caméra, elle descend pour que le mec appuie sur le bouton de l'aimant et c'est un faux cut, en fait, bref. Mm. Mais du coup, tout ce truc-là, filmé en caméra subjective avec la bagarre, les bastons, les gars qui s'envolent, un gars qui se fait attacher par sa ceinture à l'aimant qui tourne, c'est oufissime en termes de mise en scène, c'est trop cool, ça marche trop bien. Et au milieu de tout ça, c'est super cool, c'est trop rigolo. Et t'as plein de petits easter eggs comme ça, par-ci, par-là, qui sont vraiment rigolos.
Mmh.
Et c'est fort chouette, voilà.
Bah,
m'y attendais pas, je me suis fait prendre... dans le truc. Et t'as des éléments trop couillants. T'as Didier Bourdon qui joue dans le film, un des inconnus. Et en fait, l'histoire du truc, c'est que Didier Bourdon, c'est l'inventeur du sérum, d'une sorte de sérum d'amour. Il se le fait voler. Mais avant de se le faire voler, il l'avait testé sur Nicky Larson pour lui prouver que ça marchait. Et pendant tout le film, en fait, Nicky Larson, il envoie des espèces de textos amoureux à Didier Bourdon, parce que genre, il est amoureux de lui. Et il y a des scènes trop gênantes. À la fin, quand Laura, elle regarde genre sur le téléphone de Nicky Larson, elle voit qu'il lui envoyait des photos de lui, genre en train de se muscler et de faire des trucs en mode vraiment les vieilles photos Tinder un peu honteuses. Et là, genre, what, pourquoi, what the fuck? Et t'as plein de blagues comme ça qui marchent très bien. Et t'as pas mal de blagues aussi sur des enfants qui tombent, qui se font mal et tout. C'est toujours marrant, les enfants qui se font mal. Donc,
seul parent
toujours
de ce podcast.
Très rigolo. Ça, j'aime bien.
Voilà, il y a des enfants qui tombent. J'aime
voilà.
Bien. Non, mais en vrai, c'est cool. Je fais un peu ma râleuse, mais déjà, je l'ai pas vu, donc j'ai pas d'avis. Et je pense, enfin, je suis assez contente pour Philippe Lachaud qu'il ait fait ça parce que je sais pas, il, dans toute la promo et tout, il respirait le kiff et la bonne humeur. Tu sens que ouais. C'est un rêve de gosse. Il l'a adapté. Il me semble que le mec qui a créé le Nicky Larson au Japon était content du film aussi. Mmh. Donc, bah, au final, les rageux vont rager, mais ça a l'air de plaire aux principaux intéressés, c'est-à-dire les gens qui ont créé le personnage. Et bah, c'est cool que pour les gens qui ont grandi avec Nicky Larson, ce soit une bonne adaptation. Je sais qu'on ne croule pas sous les bonnes adaptations de trucs de notre enfance, donc
non,
c'est chouette.
Mais je pense qu'en plus, c'est même plutôt une bonne comédie, quoi. C'est-à-dire, même sans connaître forcément Nicky Larson, je pense que
tu passes à côté de plein de vannes.
Ouais, mais c'est vraiment très con, le personnage il est assez évident et ça marche vraiment très bien. Moi, ça fait longtemps
que... Pas besoin d'avoir une backstory, du lore, tu vois, genre, mais alors qui est vraiment cet homme, c'est bon. Ouais. Si ça commençait avec une blague de bite, à mon avis, tu peux rentrer dedans, tu
vois. Ouais, bah, je sais pas, Ranma 1/2, tu vois, je sais pas ce que c'est, tu vois.
Oui,
c'est
mais en fait, tu vas, t'en rates quelques-unes, mais, enfin, pour le coup, je m'étais pas marré autant devant un film depuis un moment.
Ah ouais?
C'était vraiment un gros, un bon kiff.
Bah, écoute.
Wow. Voilà.
Merci beaucoup, Cédric.
Je vous en
prie. Pour ce mini kiff. Très quoi, Mimi,
c'est à moi.
Et tu, mini kiff.
Du coup, mon mini kiff, c'est un jeu de société, car finalement, je crois que j'ai jamais parlé de jeu de société, et je me suis dit que j'allais parler de un de mes jeux de société préférés. Comme ça, je vais pas m'engager sur mon jeu de société préféré.
Le Milbourne.
Regarde, Cédric, il est là. Vas-y, vas-y, c'est lequel?
Trop cool, ouais, c'est clair. Show. Vas-y, vas-y.
C'est un jeu assez connu pour qui aime bien les jeux de société un peu modernes, qui s'appelle Concept, et qui a été sacré jeu de l'année en 2014 au Festival des jeux de société de Cannes, qui a lieu tous les ans. Alors, j'ai noté, il a été créé par un mathématicien, mais... Vous-même, vous savez, je suis nulle en maths, donc c'est pas un jeu avec des additions.
Ok, ça va.
Et édité chez Repos Productions, que j'aime bien parce que j'ai un pote qui travaillait là-bas. Et du coup, je me suis dit que j'allais name dropper, voilà. Et du coup, le concept, n'est-ce pas, c'est qu'il faut faire deviner quelque chose, mais sans parler. Et en fait, pour faire deviner quelque chose, on a une planche avec 120 symboles. et une grille de lecture des symboles. Par exemple, chaque symbole va avoir plusieurs niveaux de lecture. Si tu veux faire de vie, et t'as des pions à poser. Et en fait, tu dis rien, et juste tu poses tes pions, et les gens doivent associer les significations des symboles pour finir par comprendre ce que tu veux dire.
C'est apprendre le chinois, en fait.
C'est un peu... C'est inspiré par l'alphabet maya, apparemment.
Ah.
Par exemple, si tu veux faire deviner une vache, c'est très simple. Tu poses un pion sur le symbole animal, un sur, par exemple, un liquide, un sur une bouche liquide. Qui mange, et un sur du blanc. Et comme ça, tu sais, et tu peux indiquer que, genre... L'animal est blanc et noir, mais le liquide n'est que blanc. T'as un système de pions avec différentes têtes pour savoir qu'est-ce qui est relié à quoi.
Ça a l'air compliqué.
Et t'as des cartes. Et donc ça, c'est un exemple simple. La vache, c'est vraiment facile. Mais après, tu peux essayer de faire deviner, genre, Benabar. J'ai essayé de faire deviner Benabar, c'est très dur. Le chanteur, t'as pas beaucoup d'infos. Un chanteur français, ça, c'est facile. Et après, t'es
un
là.
Un verre.
Hein?
Un verre.
Un verre.
Y a pas des verres.
Des verres, quoi.
Des verres.
Parce que Benabar et le bar.
Alors, tu peux faire ça, par exemple. Tu peux
oui.
décortiquer
et après,
le mot.
Tu dois faire deviner Bena.
J'avais joué avec ce bon con de Navo, Bruno Muschio, qui devait faire deviner Gad Elmaleh. Parce que tu pioches des cartes où il y a marqué ce que tu dois faire deviner et tu choisis. Donc c'est pas. Et ben après, tu peux faire des idées dans ta tête si tu veux. Et pour faire deviner Gad Elmaleh, il s'est dit ça va être trop facile si je fais un humoriste franco-marocain. C'est relativement facile à faire deviner. Donc il a fait deviner un mec qui rêve d'une banque. Parce que c'était l'époque où il y avait la pub avec Gad Elmaleh qui disait je rêve d'une banque. C'était long, on n'était pas sobre, c'était très long comme partie de concept. Et en fait, moi ce que je préfère, c'est faire deviner les expressions et les proverbes, genre Pierre qui roule n'amasse pas mousse ou t'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Faire deviner ça à concept, c'est ultra long, mais moi je suis trop, enfin ça me met dans une zone mentale où je suis trop contente. Genre je suis là, ok, je regarde le plateau, j'ai l'impression d'être dans Matrix, genre il y a plein de trucs dans ma tête, genre piou, 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 et après je pose mes pions. Et en fait, il y en a qui mettent longtemps, genre ils posent un pion après l'autre, ils attendent que. Parce que du coup, tout le monde joue ensemble. Enfin, tu peux faire en one-to-one, mais c'est un peu chiant. Mm. L'idée, c'est plutôt que t'es 4 ou 5, et t'en as un qui fait deviner, et tous les autres, ils réfléchissent ensemble à qu'est-ce que c'est. Et donc, il y en a qui posent un pion, ils attendent de voir quand le groupe commence à s'orienter un peu dans la bonne direction, ils posent un autre. Moi, je suis là, genre, j'ai ma map mentale, je pose tous les pions, du coup, j'en pose 12 d'un coup, et genre, ils sont là. Quoi? Et j'aime trop les voir galérer et voir que des fois des trucs qui sont évidents dans ta tête le sont pas du tout pour d'autres gens.
Genre, est-ce que tu t'énerves
vers un bar, tu ouais. vois, oui. Mais ça t'est venu tout de suite. Et en fait, j'aime bien parce que ça me rappelle dans ma saga jeunesse préférée qui est À la croisée des mondes, qui est devenue une série il y a pas longtemps, qui est vachement cool. Il y a la meuf, elle a un objet qui s'appelle un alétiomètre et c'est une boussole qui dit la vérité.
Oui.
Et en fait, c'est une boussole avec plein de symboles et chaque symbole a différents niveaux de lecture.
Mm-hmm.
Et du coup, c'est un peu pareil mais en jeu de société parce que donc t'as aussi une fiche qui te dit telle icône, ça peut vouloir dire donc le niveau 1 c'est animal par exemple, mais le niveau 2 ça peut être monstre, donc c'est un peu moins évident, le niveau 3 ça peut être enfin je dis n'importe quoi mais divinité
mais
ou réconfortant.
Du coup tu dis quel niveau a ton pion ?
C'est les gens qui galèrent en face. J'aime trop ça.
C'est horrible.
Ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai envie de ça me re hype, je suis là. Oh my god, j'ai envie de jouer à concept.
Et tu préfères faire deviner ou deviner ?
Honnêtement, j'aime bien les deux. Parce qu'il y a une vraie satisfaction quand tu trouves enfin, quand tu galères longtemps et que tu trouves. C'est décevant quand tu trouves vite. Genre vraiment quand tu commences à connaître un peu le jeu ou que tu, je sais pas, des fois tu tentes un truc random et tu trouves. Genre à un moment j'ai crié Nicolas Sarkozy et c'était ça. Il y avait pas encore de pion sur la table donc j'étais là désolée. Je vais arrêter de faire des blagues nulles. Donc c'est un peu chiant quand tu trouves vite mais quand tu galères c'est vraiment très satisfaisant. Et après j'aime bien genre. Ce moment Matrix dans ma tête où genre je réfléchis à ce que je vais faire deviner et je suis là ok ça va partir comme ça c'est plein de connexions logiques et j'aime bien ce que ça fait à mon cerveau.
Il y a un maximum de joueurs ou pas?
Non, en soi il faut juste tenir autour de la table. Le plateau il fait la taille de à peu près de, il est un peu plus petit qu'une table basse carré Ikea que j'ai sous le nez. Je suis nulle en dimension. En gros il fait 2 feuilles A4 et il y a un système de points, mais moi quand j'y joue je compte pas les points parce que je m'en fous, mais tu peux t'as des points, donc tu peux dire que celui qui a trouvé la réponse finale, il garde le point, et à la fin, du coup, tu comptes qui a gagné. Moi, je joue juste pour le plaisir de jouer, donc je compte pas les points, mais pour les gens un peu compètes, genre Fabrice Florent, il y a moyen de compter les points.
Mais du coup, faut connaître toutes les significations par cœur, ou tu peux te
référer... Non, t'as la fiche sous le nez.
Décollage.
Oui, heureusement.
Mais tu peux faire deviner ce que tu veux.
Oui, tu peux, t'es pas obligé de t'appuyer sur les... Enfin, t'as la fiche de lecture des symboles, ça, tu l'as avec toi. Et après, t'as des cartes qui te suggèrent, il y a trois niveaux, il y a genre qui te suggèrent un truc facile, genre vache, un truc moyen, genre Benabar, et un truc difficile, genre t'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Et tu choisis dans ta tête, et du coup, bah, tu... Mais après, tu peux, je peux faire deviner Alex Martino si je joue avec des gens qui connaissent Alex Martino. C'est très marrant d'ailleurs.
Comme tout le monde connaît Alex Martino.
Maintenant, oui. Je pourrais faire deviner Alex Martino à n'importe qui.
C'est trop bien. Et en vrai, j'ai grave envie d'essayer, même si j'ai peur que ça me fasse mal à la tête. Parce que déjà, le il ou elle, ça me fait mal à la tête parfois.
C'est quoi le il ou elle ?
Tu connais pas le il ou elle ?
Mais non. Bah, bah, sinon, je te demanderais pas.
Il ou elle, c'était le jeu. Il ou elle, c'était le jeu auquel on jouait avec mon frère quand on était petits dans la voiture.
Eh ben, c'est plus clair.
Mais comme on n'était pas là, on connaît pas Alex Martino.
Et en fait, il suffisait de choisir quelqu'un dans ta tête.
Vas-y, on fait une partie de il ou elle, là. Tu choisis quelqu'un ou quoi?
Alors, vas-y, je choisis quelqu'un dans ma tête. Et en fait, la première question, c'est vous me demandez il ou elle. Je vous réponds il ou elle. Et après, vous me posez des questions. Et
je connais
et je peux
jeu,
vous répondre que par oui ou non.
C'est d'accord.
Moi, je demande d'abord est-ce que j'existe ou pas. Parce que après, sinon, c'est trop dans ma tête.
Ouais, et voilà, c'est ça.
Il ou elle?
Elle.
C'est Alex Martino.
C'est le principe de...
Non, c'est Kalindi Rampfol.
C'est Kalindi Rampfol.
Et là, vous n'avez pas le droit, vous êtes éliminé normalement si vous faites des guesses comme ça.
C'est le principe de l'invité mystère des grosses têtes.
Pourquoi on a que des rêves de vieux dans ce podcast, putain?
Non, mais on vient tout le temps à Chantal là-dessous, quoi.
Il y a plein de jeunes, Mimi. Il y a Jérémy Ferrari.
Ariel Dombal.
Oh.
Parle pas de ça.
Objectivement,
ah, les vieux, ça va, c'est dans ta famille, Mimi.
Elle est pas vieille, Ariel.
Elle a 60 ans.
Très bien pour son âge. Bah, c'est... L'âge, c'est dans la tête.
Eh ben, rappelle-toi de ça la prochaine fois que tu me diras que j'ai 48 ans.
Rappelons-le qu'Ariel Dombal est la cousine de Mimi.
De loin.
Ouais. Et en fait.
Je pense que Kalindi et toi l'avez beaucoup plus côtoyé au festival de Gérardmer, dont vous revenez, que moi dans l'intégralité de ma vie, car je ne l'ai jamais vue. Sauf dans Un Indien dans la ville, où elle a un rôle incroyable.
Ouais! J'aimais trop ce film quand j'étais
petite. J'ai un peu envie qu'on fasse un remake avec toi, Henri.
Ah, oh, j'ai cru en Indien dans la vie.
Non, j'oserais pas.
Mimi, si tu...
Je vais avoir des tweets après. Pas, mais j'ai déjà fait une référence à tes origines dans cet épisode, je vais m'arrêter là.
Ariel Dombal a une interview ultra intéressante, d'ailleurs, sur l'âge, et où en fait, elle dit... Elle pense qu'une personne n'a qu'un âge dans sa vie et qu'on est toujours un âge. Et elle dit, moi je suis une femme de 34 ans, même quand j'avais 20 ans, j'étais une femme de 34 ans.
Eh, ça se tient, parce qu'il y a plein de gens qui sont, voilà, qui sont vieux dans leur tête, alors que non, et qui restent un peu...
Moi par exemple, je pense que j'ai 17 ans. Voilà.
J'aime bien parce que tu le dis assise par terre avec ton jean troué et tes baskets, c'est very genre, ouais j'ai 17 ans. Du coup, légalement, tu ne peux pas boire d'alcool. Ce qu'on arrondit à 18.
On arrondit à 18. Mais non, parce que j'aimais bien en fait ce danger de pas pouvoir.
Ah. 17 et demi.
Bon, alors du coup, ça fait une belle transition tout ça vers le mini kiff de
Kalindi. En fait, j'aimais pas mon mini kiff.
Bah, j'ai compris, t'as essayé de le changer 4 fois.
Et du coup, ça me permet de parler de l'autre kiff que tu m'avais interdit d'en parler. Ah, c'est parfait. Mon mini kiff.
Heureusement qu'on a eu une animatrice pour ce podcast.
Mon mini kiff, c'est le compte Instagram d'Ariel Dombal.
J'adore, trop bien.
C'est la meilleure chose. Pourquoi? C'est mon kiff. Parce que.
Attends, comment? Est-ce que c'est toi qui m'as guidée vers Ariel Dombal? Juste pour pouvoir avoir une transition vers le kiff que Alix voulait pas?
C'est
vraiment je suis un mentaliste.
Ah, c'est clair, c'est un génie du mal.
Fabien, on les cas.
C'est le seul nom de mentaliste que tu connais.
Non, il y a l'autre connard de mentaliste. Voilà, bon. Et ce week-end, avec Alix, nous étions à Gérardmer au Festival du Film Fantastique, où je suis chaque année, qui est génial. Et cette année, Ariel Dombal faisait partie du jury. Avec plein d'autres jeunes personnes, super sympa, voilà. Et...
tu les as pas rencontrés, c'était ton rêve de rencontrer.
Je t'ai dit que Flavien Berger m'a regardé, il m'a souri. Alix a dit que je suis érotomane, mais moi je pense qu'il est tombé amoureux de moi. Bref, il y avait Ariel Dombal. Et en fait, on est allé le samedi soir à Gérardmer. Il y a une tradition que je connaissais pas, qui est la nuit décalée, où en fait, ça se passe dans le grand cinéma de Gérardmer, là où se passent la plupart des projections. Et en fait, ils projettent 3 ou 4 films,
toute
plus
la
ou
nuit.
Moins vieux, toute la nuit, avec des animations. Enfin, c'est un peu débile du cul, quoi, le concept. Et là,
est-ce que tu connaissais pas cette tradition parce qu'avant t'étais avec les VIP en train de boire du champagne et que là, t'étais avec le peuple de Gérardmer?
Bah c'est un peu ça, ouais.
La du nuit coup, dernière, j'ai... Bah, en oui. comparant, est-ce qu'on préfère la nuit décalée
ah, bah
ou,
ouais, c'était zinzin. Ah, parce ouais, que donc là, du coup, en gros, Ariel Dombal est venue présenter son film Alien Crystal Palace, qui est sorti l'année dernière. Et elle est venue le présenter avec les gens qui ont joué avec elle dans le film, dont Nicolas Kerr. Je vous invite à aller checker cette personne sur Internet. Et Asia Argento, entre autres personnalités. Il y avait aussi Joséphine Delabaume, enfin bon bref.
Et Jean-Pierre Léo quand même.
Attends, mais ça c'est dans le film.
Oui.
Là, il était pas sur scène,
ah,
Jean-Pierre
non,
Léo.
Non, bah non.
Et donc, ils viennent, tic et tac, qui racontent une histoire.
C'est clair.
Josiane, il était pas sur scène. Bah non, c'est vrai, Jean-Pierre Léo, il était pas sur scène.
Je sais pas qui est Jean-Pierre Léo, putain.
Jean-Pierre Léo, c'est un mec le héros des 400 coups.
Ah, j'ai le gamin des 400
tu vois. Ouais. Et pas du mort. Coup, t'as ces gens-là qui sont venus, certains qui sont venus sur scène, et t'as Ariel Dombal qui était là. Oh, alors c'est génial! On a ramassé 3 centimes! Mon ordinateur vient de tomber.
Putain, mais tout tombe maintenant dans les MMK.
Mais je pense que
le
MMK devient dangereux.
Attends, mais tiens, pose-le là, tu bouges trop là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, voilà.
Faut le mettre dans la fente. Et.
Titre.
Et donc elle dit oui, on a dit qu'on arrêtait. Elle dit oui, on a ramassé 3 centimes par terre et puis on a fait du cinéma libre. Et là le film se lance, Canal Plus, Orange, les
je l'adore.
On l'adore, vraiment 3 centimes Ariel. Et donc là, ils sont venus dire c'est génial, le cinéma libre, on est tous libres, tout le monde fait ce qu'il veut. Et là les
et
gens
elle dansait et tout, c'est vraiment une showwoman.
Ah
hein.
Ouais, c'est une showwoman. Ben, je vous rappelle qu'il y a quelques années, elle était au... C'était au Lido ou c'était au Folies Bergères?
Tu m'as dit au Lido.
C'était
mais...
au Lido, ouais. Où elle faisait un spectacle absolument incroyable. Elle était meneuse de revue pendant quelques mois et en fait, elle dansait. Il y avait des femmes qui mettaient leurs mains sur ses parties intimes. Donc elle dansait tout le temps toute nue. Mais c'était tellement bien chorégraphié qu'on voyait jamais... voilà. Bref, et donc là, elle danse. Elle est là, zinzin, zinzin. Elle danse, ni ses seins. Et pendant ce temps-là, ils avaient mis un espèce de truc pour faire un ventriglisse
ah ça j'ai vu
terre.
En story.
Exactement, oui. Et les gens se jetaient sur des pizzas gonflables.
Oui.
Et derrière, il y avait Asia Argento et tout le monde et surtout Ariel Dombal qui était ravie, elle était là, contente, elle riait.
Elle a pas fait du ventriglisse Ariel Dombal.
Non.
Et non, étonnamment.
T'es sûr. En même temps, 64 ans, bon, peut-être qu'il faut.
60, et oui, 66, puis il y a une coiffure à respecter quand même et tout. Enfin bon, voilà quoi. Et donc après ils ont lancé le film Alien Crystal Palace. Je vous la fais courte parce que c'est pas le sujet, c'était ça que je voulais faire comme mini-kiff, mais c'est un film un film complètement zinziflex. Si vous avez une heure et demie et vous voulez l'investir dans du temps zinziflex, regardez Alien Crystal Palace. Et j'ai pas été payée pour faire la promotion de ce film, j'aurais bien aimé, mais où ça raconte globalement des personnes qui veulent faire un film où ils réunissent un homme et une femme pour créer l'androgyne parfait. Bon, c'est n'importe quoi déjà,
ça n'a aucun sens.
Et en fait, la femme, c'est Ariel Dombal, l'homme, c'est Nicolas Kerr, et ils parlent, on comprend rien, comme ça.
Une arbalète poufias.
Mais oui, c'est pas lui qui dit. Eh oui.
Et, c'est et... lui.
Ah bon?
Oui, je crois que c'est lui.
Oh là là, on a.
On n'a pas vu le même film. Hein.
On était bourrés. Et à un moment donné. Mais non, c'est les chauves!
Ah, pardon.
Et donc, il y a un gars qui arrive à un moment donné qui dit.
Et tac,
oh là là, mais
cinéma,
cette armada
ça,
de poufias. Alors, j'ai trouvé ça génial. Du coup, je vous appellerai tout le temps Armada de poufias.
Ça peut être le nom de ta communauté d'autre choix, hein.
Possible. Mon armada de poufias. Je trouve ça génial. Et ensuite, t'as Jean-Pierre Léo, qui est donc un des visages de la nouvelle vague, qui est juste là à être vieux avec un masque. Il y a Michel Faux, qui est dans un sous-marin en parallèle et qui raconte des trucs. Bah, il veut pas sortir de son sous-marin. Bon, ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Ils vont au Caire parce qu'ils veulent faire un film sur une princesse égyptienne. Personne n'a rien compris.
Ça a l'air complètement
ouais, con. Et Asia Argento, quand elle vient sur scène, elle dit alors moi j'ai rien compris de tout le tournage, mais c'était sympa. Voilà. Donc vraiment, même les gens qui bossaient dessus n'ont rien pigé. Bref, du coup, avec Alix, on est allé regarder l'Instagram d'Ariel Dombal avant de se coucher pour voir si. Par curiosité, quoi, tout simplement. Et je vous conseille à tous d'aller vous abonner à Ariel Dombal, ouais. Car c'est fantastique. En fait, ce ne sont que des posts vidéo. Où elle est habillée en sirène parce qu'elle fait un truc contre le plastique dans les océans, donc elle est là dans sa queue de sirène
à 2000% derrière chaque idée quoi.
Génial. Et la vidéo préférée ouais. d'Alix, c'est celle du nouvel an où elle est en tenue de bohémienne. Et elle est géniale.
20 The marvelous 20s. Feliz año nuevo. Happy new year.
Et elle fait ça pendant genre 5 minutes,
c'est génial. Parfois, elle est comme ça, elle est dans un train, elle pose sa tête contre une vitre et puis elle parle. C'est juste sa voix off et tout. Enfin, c'est du génie à atomique.
Ah ouais, non, c'est vraiment la meilleure
chose.
C'est
génial, parce qu'elle est full premier Doug, ou en tout cas, elle fait semblant de faire des trucs au premier Doug, donc ça rend le truc encore plus comique. Et puis elle est créative, quoi, on l'adore. Voilà, donc c'est mon petit kiff du moment, mon vrai mini kiff, c'est Alien Crystal Palace. Le film.
Ah, la meuf, elle s'aborde le podcast, quoi. Moi, j'étais très contente. Et là, je me suis dit comme quoi, les liens de la famille, hein, ça se voit. Parce que j'ai vu qu'elle avait donné une interview à l'occasion de sa présence au jury de Gérard Armé en disant qu'elle aime pas les films d'horreur et que son programme, du coup, pour Gérard Armé, son plan d'action, c'était de se cacher les yeux quand c'était trop moche parce qu'elle voulait pas avoir des images moches en tête. Et elle est jury d'un truc de film d'horreur. Et vraiment, l'adore. J'étais là, je fais pareil, meuf, mais je suis pas jury à Gérard Armé.
Et ouais, on l'adore.
C'était ma technique aussi quand on est allé voir un film qui s'appelle The Vigil. Ouais. Et en fait, on n'était pas à côté avec Kalindi, et Kalindi était derrière moi. Et moi, bon, je suis ultra sensible aux films d'horreur et donc je sursaute de façon très forte, quoi.
De façon sursautante.
Alors quand je suis à côté de Kalindi, je m'en fous, elle se fout de ma gueule. Bon, bah voilà. Là, j'étais à côté de gens dont je ne connaissais pas la personne, quoi. Et.
Peut-être Flavien Berger.
Toujours plus du cours de français dans ce podcast.
Et donc, je me suis dit, bon, il faut pas trop que j'ai honte, tu vois, pas trop que je sursaute. Donc, dès que j'entendais un jumpscare arriver, je fermais les yeux. Et Kalindi m'a dit, t'as pas eu l'air d'avoir trop peur? Mais en fait, c'est parce que je fermais les yeux.
J'étais en méditation.
La moitié du film. Voilà, parce que je savais qu'il y avait des trucs horribles.
Eh ben, ouais. Ariel Dombal, toi, moi, même combat finalement.
Mais qu'allais-tu faire dans un festival de films d'horreur, Alex?
Mais en fait, c'est pas que j'aime pas ça, parce que j'aime bien, mais c'est juste, je suis ultra sensible, donc ça me tend fort, tu vois.
Mais du coup, t'aimes genre les scènes d'exposition, mais pas...
Non, mais il y a des films d'horreur, ils sont bien, mais le jumpscare, tu le vis pas bien quand même, donc c'est...
Même pour quelqu'un qui est coutumier du film d'horreur, en vrai, le jumpscare, c'est jamais... Enfin, même moi qui en regarde tout le temps, je suis tout le temps là, putain, c'est désagréable. Enfin, le sursaut, ça fonctionne sur tout le monde, quoi, tu vois.
Quand il y a pas de jumpscare, ça va mieux déjà.
Ouais. Oui, quand il n'y a pas de jumpscare, moi, le gore me dérange pas du tout.
C'est le meilleur truc.
J'ai appris par exemple que Mimi avait vu tous les sauts tout à l'heure. Oh, j'étais choquée.
Alors, j'ai un peu menti, j'en ai vu 6, je crois.
T'es allé jusqu'au
meilleur. Les 8, c'est déjà pas mal. Hein.
Oui, c'est déjà beaucoup.
Mais finalement, tu vois, Gérard Armé, on a vu qu'un film avec des jumpscares parce que les autres.
C'est film fantastique en plus, donc c'est pas que des trucs d'horreur.
Ouais, c'est ça.
Non, mais vraiment, regardez Alien Crystal Palace, c'est vraiment très très marrant. Ouais, et en plus, il y a des scènes à moitié pornographiques où Ariel Dombal roule des pelles à des meufs en leur touchant le cul. Bon, bref, ça sort de nulle part. Après, ils prennent du cristal, ils le jettent. Et puis parfois, t'as des gens qui se rendent. Enfin, le film est drôle parce qu'il sait ce qu'il est. Et donc, t'as juste des moments où t'as un gars qui est là qui dit. Mais qui sont ces gens? Mais on ne comprend rien, putain!
Ouais, marrant.
Voilà, c'est du génie.
Oui, c'est bien. Assez méta aussi comme cinéma, on adore. Merci beaucoup, Kalindi, pour ce mini-kiff.
Totalement validé par la prod de ce
podcast. Validé par la production
de ce podcast. C'était l'Instagram de Ariel Lombard.
Oui, bien sûr.
On a parlé 3 secondes!
Eh bien, moi, je vais vous parler de mon mini-kiff qui est ma nouvelle couleur de cheveux.
Yes!
Voilà.
Oui.
Donc, pas plus tard que la semaine dernière, Lucie m'a fait un henné. Donc, c'était la première fois que j'en faisais un, puisque je me suis toujours décoloré les cheveux. Et c'est la première fois que je deviens plus foncé. Donc, en fait, j'ai les cheveux maintenant au burn, à peu près.
On dit au burn, on dit pas au burn.
Au burn.
Au burn, c'est... Ouais. Je me suis fait les cheveux au burn, c'est un autre délire. Ouais. Wow.
Donc, voilà. Donc, j'arrive pas à me
concentrer. Le henné.
Donc Lucie m'a appliqué du henné. J'avais très peur car vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être lu sur mademoiselle.com, la dernière fois que je me suis fait un balayage, une coloration, que j'ai changé un truc à mes cheveux, c'était une catastrophe. Voilà, j'avais fait je ressemblais à un tigre vraiment. Ça, j'étais allée chez une coiffeuse qui me prenait 50 euros et j'avais payé en ligne, donc je pouvais pas me barrer. Et elle m'avait fait un balayage, mais vraiment très, très, très,
2004,
très mal fait.
Quoi.
Très 2004.
Qu'est-ce qu'il y a chez Mammouth?
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a chez Mammouth? Oui, exactement, qu'est-ce qu'il y a chez Mammouth?
Vraiment, cette référence vieille sur une chaîne de supermarché qui n'existe plus.
C'est les inconnus.
Ça n'existe plus, Mammouth.
Ça n'existe plus depuis très longtemps,
Mammouth. C'est un sketch des inconnus, voilà. Voilà, vieille ref encore.
Donc voilà, et donc c'était la première fois donc que je me fonçais les cheveux après cette mésaventure.
C'était quand cette expérience
C'était en mai dernier. Alors c'était une belle histoire parce que c'était juste avant le festival de Cannes où j'étais censée y aller et donc
y aller d'ailleurs hein.
J'étais censée y aller genre juste après et en fait je me suis en me disant ça va être super beau, je vais être magnifique sur le tapis rouge, enfin voilà.
Ça fait festival en même temps.
Ça fait très festival, tu vois. Et du coup, ça m'est complètement raté et j'avais appelé ma mère en pleurant qui m'a payé un deuxième coiffeur pour me recolorer les cheveux en brun par-dessus un petit peu, tout en laissant quelques mèches.
Ah, il y avait rien à sauver.
Ah non, il y avait rien à sauver, non, non. Enfin, le bas de mes cheveux, un petit peu, les longueurs, ça allait. Ouais. Mais vraiment, le dessus, c'était atroce. Le coiffeur, il m'a regardé, il a fait, je suis désolée que ça vous
arrive. Ah, le coiffeur, il s'est excusé à la fin.
Ah non, mais c'était un autre. Ah, ah non, mais je suis pas retournée chez la coiffeuse.
Il a dit désolé pour les autres coiffeurs qui font n'importe quoi.
Voilà, c'est ça. Et
tu lui as dit à la coiffeuse ou pas?
Non, pas du tout. Je suis partie en disant merci beaucoup, c'est magnifique.
La picosserie, putain.
J'avais envie de pleurer, puis j'étais là. Merci, c'est gentil. Mais en fait, je sais pas, tu vois, t'as déjà une coiffure de merde. Est-ce que tu veux vraiment t'embrouiller avec quelqu'un?
Non, je comprends. Hein.
Non, t'es juste triste à ce moment-là, tu vois. Et donc voilà, je suis rentrée, j'ai pleuré un coup. J'ai appelé ma mère et elle m'a payé le coiffeur. Et finalement, je suis allée à Cannes et j'ai plutôt des belles photos sur le tapis rouge où j'ai juste mes cheveux normaux puisque je n'ai presque plus de balayage. Et donc là, bah voilà, je suis d'un roux. Brun, enfin voilà, au burn.
C'est intense, hein.
Ouais, et c'est
profond.
C'est, ouais, c'est top. Écoutez,
c'est profond
je
et
ça...
métallique à la fois.
Absolument. Ouais.
Commentaire audio de Kalindi Rumpfel.
Absolument, on dirait des braises qui coulent comme ça de ta chevelure.
La coulante.
La coulante de braise.
Bon bah voilà, je suis pas venue ici pour souffrir, ok.
Mais du coup, non, j'ai une vraie question. Là, t'as pas fait de décolo ni rien?
Non, non. Non, non,
là, je vais faire
colo,
ça, wesh.
C'est une colo naturelle.
Bon. Ouais, ouais, je connais le henné, mais en fait, pour moi, on a... Je suis marocaine quand même. Mais pour moi, on a les mêmes cheveux de base, la même teinte. Et moi, ouais. Je me suis toujours dit que faire un henné sur moi, ça rendrait pas grand-chose parce que j'ai les cheveux trop foncés. Et Lucie, il avait fait à Océane du bureau et ça avait pas... Tu vois, ça se voyait vachement moins que chez toi.
Oui,
coup,
parce que
je me dis peut-être, il faut que j'essaye.
J'ai mes restes de décoloration de mai qui sont dans mes longueurs.
Donc, il faut que j'aille me faire un balayage raté.
Voilà,
que je le rattrape en mettant un deuxième coup de coiffure dessus, que j'attende 6 mois et je me fasse un henné.
C'est ça. Ah,
ok.
Voilà. Que plan.
Go. C'est la scène.
Tu me donneras l'adresse de ta première coiffure.
Mais ils sont pas si foncés que ça, Mimi, tes cheveux, ça va prendre, hein.
Ouais, je pense.
Bah là, ils sont un peu décolorés. Enfin, un tout petit peu, j'ai fait un ombré.
Ah,
ouais. Oh, bref, nous verrons.
Bah voilà, et du coup, je suis contente, je trouve que ça va bien avec mes yeux, ça me rehausse le teint. Et voilà, je suis ravie en fait d'essayer des nouveaux trucs dans ma coiffure.
Ah,
j'aime bien changer de tête.
C'est trop beau, ça intensifie grave ton regard.
Ah non, mais ça te va magnifiquement.
Oh, vous êtes tous si gentils.
Elle est belle, Alex Martin.
Oh,
sachant que Cédric, faut pas prendre au sérieux ce qu'il dit. Tout à l'heure, j'avais un contour des lèvres noir. Et il m'a dit c'est magnifique, tes lèvres sont tellement pulpeuses qu'on dirait que tu as du rouge à lèvres au milieu alors que c'est mes lèvres naturelles, ce gros bâtard de suceur.
Il y a une différence entre la politesse et l'honnêteté aussi, tu vois.
Bon voilà, bah écoutez, merci pour mon mini-kiff.
Merci Alix Martino pour ton mini-kiff.
Voilà. Merci à Alix Martino d'être
et c'est même. L'heure des gros kiffs.
Et oui.
Alors il faut refaire un jingle.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Allez.
Gros kiff.
Gros kiff.
Gros
kiff.
Gros kiff. Gros kiff.
Je suis hyper mal à l'aise parce que j'ai pas compris quelle tonalité fallait prendre. Personne m'a compris. Bah allez, c'est bien là, comme générique.
Ah oui, vrai, là c'est l'abandon quoi. C'est genre on est...
Bah écoute, tous les Valentins nous ont abandonnés, nous aussi on abandonne, voilà.
Ah mais on est parti de la station essence sans les enfants là, c'est... Salut les gars. Démerdez-vous avec votre bordel de jingle.
C'est ta définition de l'abandon donc, direct. Enfant sur une station, d'accord.
T'as un message à transmettre Cédric, t'es fatigué.
Fais gaffe à toi Jojo.
Toi qui écoutes ce podcast putain, et le comprends.
Bon, à toi, Cédric, de nous parler de ton gros kiff.
Eh bien, tout à fait. Mon gros kiff. En fait, c'est un gros kiff un peu d'ennui. J'ai pas mal.
Ça a l'air génial.
Ça, mais c'est. En fait, j'ai pas mal traîné récemment sur Netflix parce que j'ai eu un peu de temps et donc j'ai vu plusieurs choses que j'ai bien aimées ou pas. Et en fait.
Est-ce que tu vas nous dire deux titres et on doit deviner?
Ah ouais, fais ça.
Ou ouais.
Tiens, dis deux titres, un truc que t'as aimé, un truc que t'as pas aimé, on doit deviner.
Putain, maintenant d'accord. On fait des games et tout. En
ok.
Un bah podcast alors, ludique.
Je dis les titres. The Witcher.
Bah, et dis l'autre, parce que sinon on peut pas savoir.
Ah, et l'autre.
Moi, je sais, hein, donc
c'est
je vais
BoJack
pas répondre.
Horseman.
Ah bah okay. T'as aimé BoJack Horseman et t'as détesté The Witcher.
Yes.
Alors c'est pas que j'ai détesté The Witcher, mais il y a
détesté.
Vraiment.
Moi,
alors il y a un problème.
C'est pas ton kiff Kalindi.
Il y a un problème sur quand les Américains ils prennent un truc qui est pas américain à la base, ils savent pas faire. Hein.
Enfin, bah, oui.
The Witcher, c'est les livres ils sont très bien, les jeux vidéo ils sont exceptionnels. Cette série c'est une cata, mais c'est.
Il y a plein de gens qui ont bien aimé.
Ouais, mais oui,
j'ai trouvé
en fait, ça
fun,
passe
mais j'ai
quoi,
pas
tu vois. Mais les Ricains, ils font un film sur le goût du sel. À la fin, il a le goût de sucre. Ton putain de film, il y a un vrai problème de.
C'est une expression.
Non, mais c'est un truc qui me. C'est
mais
ouf,
qu'est-ce
quoi.
Qui fait que t'as pas aimé?
Ben que c'est plan cucu la praline de merde et que quand tu pars du, tu vois, là, à la base c'est vraiment un truc un peu marrant, tu vois, qui. Avec une vraie problématique sur où est le bien, où est le mal, machin, ça marche pas. Le personnage principal, il traîne des casseroles morales super foireuses et moralement, c'est vraiment tendancieux, quoi, tu vois. Et là, c'est... Et là, non. Et c'est chiant. Et du coup, c'est chiant.
Bah, mais du coup, comme
plutôt,
c'est...
Du coup, c'est ouais,
un podcast du coup. Ouais.
Mais, donc, comme j'avais pas aimé, et bah, du coup, je me suis remis... J'ai recommencé tout Full Metal Alchemist. Brotherhood qui est arrivé sur Netflix il y a pas longtemps, donc je me mate tout fou.
C'est celui-là où le mec il fait le chien avec sa fille.
Oui.
Ah putain, ouais. Horrible.
Alors en fait, il y a eu plusieurs adaptations de Full Metal Alchemist. À celui pour la télé qui est un peu comme The Witcher, c'est-à-dire qu'ils ont pris le manga, ils ont fait on s'en bat les couilles de ce qui est écrit dedans, on va faire plutôt notre truc et c'est pas terrible. Et il y a Brotherhood qui est l'adaptation fidèle du manga où du coup c'est moralement tendancieux, il se passe plein de trucs un peu pétés. C'est l'histoire de deux frères qui deviennent alchimistes d'État pour traquer. Ils ont des aventures, ils cherchent la pierre philosophale pour essayer. Autre d'un moment de ressusciter leur mère et puis de récupérer leur corps parce qu'en essayant de ressusciter leur mère grâce à l'alchimie avant, il y en a un qui a perdu son corps en entier, donc il y a juste son âme enfermée dans une armure et l'autre
ouais,
il a perdu
il
son bras et sa jambe.
Métal et il est alchimiste.
Voilà.
Ah.
Voilà, Full Metal Alchemist, ça m'a refait kiffer.
Mais c'était pas BoJack Horseman?
Et du coup, en fait, l'autre truc que j'ai vraiment kiffé sur Netflix, c'est la fin de BoJack Horseman. Alors, BoJack Horseman, j'en ai, non, c'est Monsieur Chaussette qui en avait parlé. Je n'étais pas là, c'était
épisode-là.
Non, mais
le loophole de connard, j'en ai pas déjà parlé, c'est Monsieur Chaussette qui en a parlé.
Ça devient vraiment l'embrouille des mini des kiffs et tout. Et donc, BoJack Horseman se termine, et c'est sans doute une des plus mauvaises nouvelles de l'année, avec aussi la fin de, j'allais dire Six Thunder, de Orange is the New Black l'année dernière sur Netflix. Moi, c'était mes deux séries Netflix préférées. Vraiment, je les tiens en super haute estime. J'ai surkiffé. Ah ouais, Orange is the New Black. Moi, alors, Al Kennedy, elle fait des gros yeux comme ça.
Non, mais ça m'étonne.
Ah si, c'était mes deux trucs préférés. BoJack se termine et c'est très triste. Et c'est très, très, très bien la fin de BoJack Horseman. Et à peu près toute la série est cool. C'est l'histoire d'un vieil acteur, si on reprend au tout début. Un vieil acteur qui est un cheval, qui s'appelle BoJack Horseman, qui est voicé par Will Arnett, qui joue que des rôles pourris au cinéma de sidekick comique de merde, et qui là a un rôle super deep profond de vieil acteur dépressif qui tombe dans la drogue.
Rôle de composition du coup.
Putain, moi je pensais que c'était drôle BoJack Horseman.
Eh ben c'est drôle.
C'est drôle mais dépression. Et...
Ouais.
Alors, tu rigoles mais à la fin t'es quand même pas bien.
C'est drôle dépressif. Ou c'est dépressif marrant.
D'accord.
Il est triste, mais il lui arrive, il voit des trucs rigolos et du coup, tu sais pas trop quoi. C'est ça qui est marrant. Encore une fois, c'est moralement tendancieux, c'est pété et tout ça. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au fur et à mesure, à la base, la première saison, elle est vraiment très centrée autour de lui et des autres gens du show business qui côtoient. Et au fur et à mesure, chacun a sa propre vie. Et c'est une série, comme j'aime bien, où t'as pas vraiment une histoire, c'est juste les personnages, ils créent l'histoire. Parce qu'il leur arrive et tout ça, c'est trop,
d'accord.
C'est cool. Et t'as une vraie galerie de personnages à la fin. Et ce qui est cool, c'est que cette fin de saison, elle clôt vraiment l'arc de chacun des personnages qui sont tous très différents. T'as les loufoques, t'as les dépressifs, t'as l'ex-agent de BoJack Horseman qui était aussi son ex-meuf, qui passe 6 saisons à en chier pour son travail et qui passe les 2 dernières saisons à en chier parce qu'elle a un enfant porc-épic parce qu'il mélange en fait les animaux et les humains. Il y a plein de blagues.
Est-ce que des fois ils expliquent
pourquoi
il y a des animaux ?
Non, il y a des animaux. Il faut, des fois, il faut laisser, là, à la porte, les doutes. C'est la suspension de crédibilité.
Oui, 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 oui.
Dès
oui,
le début.
Oui, 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 oui.
Ça s'appelle okay. Bojack le cheval homme.
Oui, 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 oui,
est-ce
oui,
qu'il
voilà.
est vraiment homme-cheval? Genre, il a une tête de cheval et le reste en homme?
C'est un cheval, ouais. mais qui se tient sur deux pattes et il a des habits.
D'accord.
Mais et à un moment, à la saison 3, il se balade dans le Nouveau-Mexique et il y a des chevaux sauvages qui courent.
C'est fou, ça.
Et du coup, tu sais pas, est-ce qu'il y a des chevaux qui sont pas, du coup, qui sont sauvages, ils sont pas encore. Pourquoi?
Mm-hmm.
Effectivement.
Mister.
C'est comme Babar, tu sais, Babar, il a des habits, mais quand il retourne dans la forêt, c'est oui, que oui, des oui, éléphants oui, sans des habits. Éléphants et t'es là, habits, du coup, ouais. mais genre, ils sont nudistes, c'est quoi le délire? Pourquoi ils sont à quatre pattes et toi, t'es debout?
Ouais.
Tu sais pas, quoi.
Voilà, ah, c'est vrai, je n'ai jamais repensé à Babar.
Pourquoi? Et pourquoi Taz, alors... dans Diable de Tasmanie, il est tout nu, il parle mal et toute sa famille, ils ont des habits et ils parlent normalement?
Bah, il est pas bien fini, c'est tout.
Il n'y a la pisse.
Pourquoi Donald porte des vêtements que en haut, mais oui. quand il se baigne, il met un short de bain?
Exactement.
Et pas en haut.
Tout à fait, ouais.
Tellement de questions. Tant
d'ailleurs, de questions. En plus, c'est vu que c'est un canard, il a pas vraiment besoin, bref, de short de bain.
Oui, il va pas se mouiller, quoi, c'est un canard.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Non, mais ça m'a toujours emmerdé qu'il y ait des animaux dans Bojack, donc je me disais peut-être maintenant que c'est fini, ils vont expliquer.
Mickey,
mais
ça t'embêtait pas ailleurs? C'est que dans Bojack.
En fait, globalement, j'aime pas les trucs où c'est des animaux humanoïdes pour aucune raison. Voilà, c'est un petit blocage. Genre, même quand j'étais gamine, mon daron, il lisait des BD genre Canardo, où c'est un polar, mais le héros, c'est un canard. Mais ouais. là, c'est un monde où il y a que des animaux humanoïdes, du coup. Mmh. Et je suis là, ok. J'aime pas trop, mais ok. Et dans Bojack, il y a les deux. Et en fait, ça me perturbe que ce soit juste accepté qu'il y ait les deux et qu'ils interagissent pareil. Et je suis là.
Ouais.
C'est vraiment, j'ai un truc de cohérence, mais ça doit faire partie de mon cerveau un peu fermé des fois, hein, mais je suis juste vraiment en mode, décide-toi, pourquoi c'est un cheval et son pote c'est un chien, mais sa meuf c'est une meuf. Ça m'énerve, ouais. tu vois, ça ouais, m'énerve, je peux pas rentrer dedans, ça m'énerve.
Mais je pense qu'à oui. la base, ça devait être un truc un peu de catégorisation des personnages, genre pour se dire, ok, je vais transmettre visuellement plus que si je dessine que des humains ou juste des machins,
oui, oui,
je vais leur adresser
bien, oui.
ce truc-là. Et au fur et à mesure, ils en ont fait plein de blagues sur les types d'animaux que c'était. Genre son meilleur ami qui est un chien, il est tout le temps super content, il est tout le temps joyeux.
C'est le labrador là, comment il s'appelle?
C'est le labrador genre, Monsieur Peanut Butter.
Ah oui, on l'adore.
Il est très con.
C'est un bon nom de chien.
Et du coup c'est assez marrant aussi toute la dernière saison, parce que en fait ça fait presque une sorte d'Hollywood post-MeToo, où t'as plein de trucs que Bojack il a fait dans les saisons d'avant qui recommencent à s'accumuler sur lui. Et donc sans spoiler la saison, du coup il lui arrive c'est un moment où genre il trouve un petit peu sa, je sais pas, sa sagesse dans sa vieillesse, il accepte d'être vieux, il arrête de se teindre les cheveux, on en parlait tout. Et en fait sur la deuxième partie de la sixième saison, ça se répète la gueule parce que son passé le rattrape, et je trouve que c'est à la fois super bien traité parce que en fait ça le rattrape pour de vrai, il lui arrive plein de merde qui réussit pas à décortiquer. En même temps, ça se fout un peu de la gueule de Hollywood et des fausses confessions, machin des gens, des acteurs et tout. Et je trouve que c'est assez bien amené, assez bien pointu, et que ça reste une vision un peu douce amère de tout ça, in fine, mais plutôt positive, et assez bienveillante sur les gens qui restent autour, qui sont aussi talentueux que ce cheval qui est cramé. Et en fait, eux, eh ben, il a passé 6 saisons quasiment à leur bouffer un peu le cerveau, à les déstabiliser. Et eux, ils finissent un petit peu par s'en tirer. Et lui, il s'en tire un petit peu différemment. Mais je trouve que c'est une assez belle histoire et qui est très, okay. très, très rattachée à notre société sur les dernières saisons. Et ça vaut vraiment le coup de voir ça. 20 minutes par épisode, pas beaucoup, pas long, hein, pas cher.
Non, mais c'est bien de commencer pour les gens qui vont commencer en sachant que c'est fini et que,
ouais,
ça finit et que la fin est cool, au lieu de se lancer et de peut-être ça va être annulé ou la fin elle va être foireuse. Et
genre
tout, là, au moins
Game
vous savez, vous pouvez y aller. Tous les gens qui aiment bien Bojack sont contents de la fin, donc
ouais.
let's go.
Ok.
Juste sachez qu'il y a des animaux et des humains pour aucune raison et qu'il explique pas, voilà, c'est tout.
Mais ouais, moi ça m'a toujours perturbée aussi parce que quand j'étais petite j'avais regardé Robin des Bois. Et j'étais amoureuse du renard, mais du coup.
Non, mais ça, il est fait pour
bizarre,
être baisable, tu vois.
Ouais, mais bon, quand même.
C'est comme dans Zootopia. Dans Zootopia, ça m'emmerde pas trop, parce que c'est le principe du film que c'est tous des animaux qui ont fini par évoluer, même si ça me casse un peu les couilles, parce que genre les animaux, filles, ont un peu des seins quand même, et je suis là. J'ai pas obligé de leur mettre des seins pour qu'on comprenne que c'est des filles, mais bon, c'est Disney, tu vois. Mais Rox, enfin, pas Rox et Rookie, mais Robin des Bois, il est fait pour être séduisant, tu vois, même si c'est un renard.
Ouais.
Ils ont animé un gars et ils l'ont transformé en renard. Mais c'est perturbant quand tu grandis et que t'es là.
J'étais amoureuse
d'un renard.
Envie de canard,
renard. Mais après, les renards, c'est séduisant. Ils ont un aérodynamisme. Non, mais c'est vrai.
Podcast problématique.
Non, mais même moi, j'avais envie de pêcher au Robin des Bois. Je trouve que c'est beau, un renard, c'est les félins. Ils
j'ai
sont
appris
jolis.
Que la zoophilie n'était pas interdite partout en Europe.
Ah. Et c'est comment? Pas vrai.
Et comment tu as appris ça? Quelle petite recherche Google t'a mené?
Non, non, j'ai appris ça dans les grosses têtes ce matin.
Voilà, mais c'est fou, il y a encore plein de pays
qui savent
où
vivre.
La zoophilie n'est pas interdite et où les gens peuvent passer en toute légalité des annonces pour demander une femme pour la saillie de son, pour que son chien puisse la ken, quoi.
Ah.
Quoi?
Oui. Oui, c'est bon.
Ah oui, ça,
et du
oui.
coup,
ça
va devenir glauque.
C'est possible, quoi.
Ah ouais, d'accord. Mmh.
Sinon,
c'est légal.
En France, tu peux toujours pas appeler ton cochon Napoléon. Pour finir,
oui,
sur une
oui,
note
oui,
positive.
Oui, c'est vrai.
C'est un héritage des lois de l'Empire.
Exactement.
C'est toujours
merci
interdit.
Merci beaucoup, Cédric.
Vous savez des choses.
Ouais. C'est à Londres où les gens peuvent pas pisser dans leur casque. Les policiers
oui,
peuvent pas
oui,
pisser
oui.
dans leur casque.
Non, vomir, pisser.
Je sais plus.
Attends, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils passent cette loi?
C'est le Fun Fact Cast.
Oh la vache.
Le podcast des Fun Facts.
Putain, Londres au 19e siècle. Les gens pissent dans leur casque. Wow.
C'est comme en Inde. Les. C'est là. Non, j'en ai juste une dernière. En Inde, quand tu veux faire passer ton permis, être examinateur de permis de conduire, il faut que tu aies de belles dents. Voilà. C'est fou, hein?
C'est fou. Oh. C'est vrai?
Oui.
Qui c'est qui décide c'est quoi des belles dents?
Bah,
je sais
d'état,
pas.
Ou...
Mais c'est une vieille loi, alors je sais pas trop d'où ça vient. C'est dans certains états, voilà.
Dingue.
Dingue, hein?
Ah, dans quel monde on vit?
Ah là là.
Cochon dingue.
Eh bien, merci putain. Beaucoup, Cédric, pour ce gros kiff.
Faut qu'on enchaîne, on peut pas s'arrêter là-dessus.
Mimi, c'est ton tour pour le gros kiff.
Oui, alors mon gros kiff est aussi sur Netflix et c'est, je pense, moins intelligent que BoJack Horseman puisque c'est, je pense que c'est la première télé-réalité produite par Netflix à 100%. Donc ils ont une télé-réalité japonaise qui s'appelle Terrace House, mm-hmm. mais qui existait déjà et qu'ils ont racheté. Là, ils ont produit leur propre première télé-réalité qui s'appelle The Circle. Le cercle, le rond, qui va d'ailleurs finir par arriver en France, si je me trompe pas, mais là c'est sorti que aux. Enfin, là c'est dispo sur Netflix France, mais c'est tourné aux US avec des Américains, et il me semble qu'ils vont le faire en France un jour. The Circle. Alors j'ai noté la description parce que je me suis rendu compte en essayant de l'expliquer à des potes que c'est pas facile à expliquer. En gros, le but de The Circle, c'est il y a des personnes en compétition pour devenir le meilleur influenceur. Et le meilleur influenceur, c'est celui qui plaît au plus de monde. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a 8 personnes, ça commence avec une parité homme-femme, qui vivent chacun dans un petit appartement dans le même immeuble, mais ils ne se voient pas. Ils ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas communiquer, ils ne peuvent pas sortir de leur appart, wow. qui est plutôt charmant. Et ils font genre, ils sont dans le même immeuble. Moi, à mon avis, non, parce que bon, sinon, ils auraient juste à genre... à sortir sur leur balcon et appeler leurs potes et ils leur parleraient. Mais bon, du coup, ils sont chacun dans un appartement identique, dans le même immeuble. Ils ne peuvent pas se voir, ils ne peuvent pas se parler, sauf à travers une plateforme à commande vocale qui s'appelle The Circle, où en fait, ils disent « Ok, Circle, emmène-moi au profil de Joey, commence un chat privé, salut Joey, comment t'as va, est-ce que t'as bien dormi ?» Et là, ça tape et ça l'envoie. Donc, ils ne s'entendent pas. Eux, ils parlent, mais The Circle, il envoie un message écrit.
Ah, oui,
donc,
d'accord.
Ils ne savent pas qui a quelle voix. Ils ont chacun un profil, donc où ils commencent en mettant une seule photo choisie parmi leurs photos qu'ils ont amenées avec eux, enfin numérique bien sûr, leur âge, leur statut, genre est-ce qu'ils sont célib ou pas, tout le monde met célib de ouf,
ouais.
et une petite bio. Donc en gros, ils créent leur profil et ensuite ils peuvent accéder au profil de chacun. Il y a à la fois des groupes chat, des messages privés et t'as des petits jeux pour apprendre à mieux se connaître ou pour foutre la merde entre les personnes dans
les
le cercle.
Les problèmes
de ouf. Et tous les deux jours, ils votent. Chaque joueur note les autres de 1 à 7 par ordre de préférence.
Ah, c'est horrible.
Et les deux les mieux votés, ils deviennent les influencers et ils décident qui éliminer. Et tout ça, ils se voient jamais. Donc en fait, ils font que se parler, et par écrit. Et ce
on
qui est bien,
caramel
c'est
en 98.
Que, de ouf, mais ce qui est malin, c'est que comme ils se voient jamais, il y a des gens qui jouent quelqu'un qui n'est pas eux. Genre, il y a un mec qui joue sa petite amie. Il est arrivé, son profil, c'est une petite meuf qui s'appelle Rebecca, et en fait, c'est le mec qui la joue. Il est trop marrant, il passe sa vie en pyjama, en onesie, là, tout en moumoute, et genre, il arrive, du coup, il est ajouté au chat où il y a que des meufs, et donc il arrive, il est là en mode « Alright girls, let's get Rebecca in this chat !» Et il se fait trop kiffer. Et du coup, il découvre des trucs, genre, il y a un moment où les meufs, elles se mettent à parler de leur crampe menstruelle, il est là oh, et il doit essayer de dire un truc qui fait
ouais,
genre il comprend les crampes menstruelles, mais il dit que de la, enfin il dit de la merde. À un moment il dit ah c'est marrant, moi, parce que le but c'est qu'il se fasse pas,
découvrir que c'est, donc ils appellent ça un catfish, parce que les catfish c'est les usurpations d'identité sur internet, et il y a tout le monde qui soupçonne tout le monde d'être des catfish parce qu'ils savent bien que tu peux faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs au début il y a une meuf, c'est une mannequin, c'est son vrai métier, elle est mannequin en plus, lingerie et maillot de bain, la meuf elle a un corps débile, et en fait les gens sont là, je pense que c'est un catfish parce que je pense pas qu'une, enfin elle est trop bonne, tu vois, elle est trop insta friendly, elle peut pas exister, et la meuf elle est trop saoulée parce qu'elle a, mais putain j'existe, c'est vraiment moi, c'est vraiment elle. Et du coup donc les problèmes arrivent dans les jeux, parce qu'au début c'est des petits jeux marrants, genre des questions trivia et tout.
Il ou elle.
Et assez vite, c'est genre hashtag. Donc déjà, tous les jeux deviennent anonymes. Donc tu peux anonymement dire un truc, enfin participer au jeu. Et c'est un jeu genre hashtag la photo de machin. Donc t'as la photo, on va dire, de Joey, et tout le monde peut mettre anonymement un hashtag. Et en fait, ils commencent à envoyer des hashtags genre on reconnaît un catfish, ou ah tu m'as, parce que Joey c'est un mec un peu forceur, donc il drague toutes les meufs et les meufs sont là, on sait, tu sais qu'on parle entre nous et tout. Et il est là, ok, qui c'est qui a dit ça, c'est à qui le hashtag. C'est trop marrant. Et l'autre truc avec les problèmes, c'est que...
On dirait un épisode de Black Mirror, en vrai.
C'est très Black Mirror, hein, dans l'idée. Et la personne qui se fait éliminer, donc dès qu'elle se fait éliminer, elle est bloquée du cercle. Genre, elle peut pas poster un dernier message, dire au revoir et tout. Mais elle peut aller voir en vrai quelqu'un. Donc elle peut aller voir en vrai un des joueurs pour découvrir si c'est la vraie personne ou pas. Et pour soit aller embrouiller la personne qui l'a éliminée, soit... enfin. Mais du coup, ils sont tous là à attendre en mode, est-ce qu'elle va venir dans mon appartement ou pas, je sais pas. Et elle peut enregistrer un message vidéo qui est transmis au reste des joueurs le lendemain. Du coup, ils apprennent à ce que c'était vraiment elle ou pas. Et c'est, c'est trop bien, c'est de la drogue, c'est du crack. J'ai regardé 6 épisodes en 4 jours et vraiment.
Il y en a combien en tout?
Il y en a 10.
Ah, ça a l'air trop bien.
Ah, ça a l'air trop bien.
Ça a l'air tellement bien.
Et en vrai, je m'attendais à ce que ce soit hyper dark, genre vraiment hyper Black Mirror, où tout le monde se fait des coups de pute, tout le monde ment et tout. Et en fait, la plupart des joueurs sont déjà pas des catfish, genre ils sont vraiment eux-mêmes.
Mais c'est eux qui choisissent d'être des catfish ou c'est
la
prod?
Oui, c'est eux qui choisissent. Ah. Ils arrivent avec leur personnalité qu'ils veulent mettre en avant, donc soit leur propre photo, soit donc il y a le mec qui fait semblant d'être sa copine, donc il a pris les mais avec bien sûr l'accord de sa copine. Il y en a une qui fait semblant d'être une de ses potes qui est plus bonne parce qu'elle dit bah en fait je vais être 100% moi sauf les photos et je veux voir comment les gens ils me traitent différemment s'ils pensent que je suis bonne par rapport au corps que j'ai dans la vie. Enfin c'est assez intéressant en fait en termes de temps. T'as toujours une raison de catfish, c'est pas juste pour les troller, leur montrer qu'ils sont cons, tu vois. Il y a un mec qui est trop pur, il s'appelle Shubham, c'est un petit gars qui est genre ingénieur en réalité virtuelle, qui est d'origine indienne, grosse tête, il a été dans une super fac et tout. Et en fait, lui, il a aucun réseau social dans la vie, parce qu'il trouve que c'est le chétan, les réseaux sociaux. Et il dit, bah moi, je veux prouver que... on n'a pas besoin d'être fake sur les réseaux sociaux et que je peux gagner The Circle en étant juste moi-même. Et tu sais, il a des vieilles photos moches, genre lui avec sa famille au restaurant et tout, où il se croppe, il dit « bah celle-là, on voit bien que c'est moi, je suis souriant et tout, mais les photos, elles sont dégueulasses. Il est sympa, il est honnête avec tout le monde et ça se passe bien, tu vois, les gens, ils l'aiment bien, ils sont là « ah, Shubham, il a l'air trop authentique, je l'aime trop. » Et moi, j'étais sûre qu'il allait se faire éliminer jour 1 parce que ses photos, elles sont moches, donc je suis un peu cynique dans la vie. Et en fait, c'est mignon parce que la plupart des gens sont eux-mêmes, ils créent des vraies relations, enfin dans les groupes chat, parce ils sont vraiment tout seuls dans l'appart et en fait ils ont pas grand chose, ils ont pas à la faire. Télé, ils ont pas internet, ils ont chacun pu amener un ou deux objets perso pour leur rappeler chez eux. Bon après ça dure pas très longtemps puisque tous les deux jours il y a une élimination, donc au final ça va, tu restes pas 4 mois quoi. Mais bon voilà, ils s'emmerdent un peu, ils se sentent un peu seuls, ils peuvent pas contacter leurs proches et du coup ils font des petits groupes chat, ils parlent, ils se font des copains et des fois genre leurs copains c'est pas du tout les gens qui pensent que
c'est horrible.
Ils sont quand même en mode oh non, je me sens un peu mal d'avoir dit que j'étais une meuf alors que non. Mais c'est trop mimes, moi j'aime trop, enfin non, c'est pas trop mimes, c'est les problèmes quand même principalement. Mais je sais pas,
c'est clair.
C'est ça a un vrai côté. Je pensais que ce serait plus nihiliste, voilà, plus misanthrope que ça. Au final, la plupart des gens sont sympas. Et il y a l'autre, le dernier aspect que je trouve fascinant, c'est en fait, c'est comme s'ils tapaient, mais sauf qu'ils parlent. Et du coup, des fois, ils envoient, donc ils dictent. Et des fois, ils envoient genre, oh bah tape MDR, je suis plié de rire. Ils sont pas du tout pliés de rire dans la vie, tu vois. Ils sont juste genre comme ça sur leur canapé. Et, mais ça fait pas hypocrite parce que c'est comme ça qu'on parle sur Internet. Mais et oui. En fait, effectivement, quand t'es toute seule, le rire c'est communicatif. C'est rare que tu rigoles pour de vrai. À part le fameux Joey qui est un genre d'Italien de New York hyper grande gueule qui se tape des barres, il passe sa vie à hurler sur The Circle et à se taper des barres, donc je l'aime trop. Et en fait, ça montre aussi que, en fait, oui, on n'a pas la tête de l'expression, de l'émotion qu'on est en train de transmettre à l'écrit, mais ça veut pas dire qu'on la ressent pas, c'est juste qu'on la ressent discrètement parce qu'on est tout seul et on n'a rien à communiquer, mais quand ils disent « oh là là, je suis mort de rire », ils sont amusés, c'est juste qu'ils sont... Ou alors, ils font genre les problèmes, tu vois, ils sont là « ah, mort de rire, c'est intéressant que t'aies posé cette question !» Et t'es là « ok, alright !» Donc voilà, j'aime bien. C'est okay. Plaisir coupable, mais j'essaye de le spinner en mode non, mais ça fait un peu réfléchir, tu vois.
Bravo, Mimi, c'est ce qu'on essaie toutes de faire quand je regarde les Marseillais.
Le 17 février, retrouver les Marseillais aux Caraïbes.
La on est sponsor ou pas
W9, genre. J'ai tellement hâte.
On n'en peut plus, elle m'a obligé l'autre jour à sortir de l'entreprise pour aller dans le couloir pour regarder le teaser de 3 minutes.
Mais vous pouvez le faire dans l'entreprise, ça.
C'était notre petite pause.
Ah bah oui, très bien, c'est une bonne pause. Ah mais oui, je suis sortie, vous étiez en train de glousser devant la porte avec un téléphone. Je suis là, qu'est-ce qu'il fout, regarde des
ouais, c'est parce que peut-être Julien et Manon vont divorcer, mais bon bref.
Voilà. Choc.
Ça fera l'objet d'autres LMK sans doute en février.
J'ai hâte. Voilà, donc c'est cool. The Circle sur Netflix.
Trop bien.
C'est vachement cool.
Que ça avait l'air horrible, j'avais relayé, je me souviens, hein, pour dire que ça arrivait en France ou je sais plus quoi, mais on en avait déjà
parlé.
Parce
que le pitch, il est horrible. Hein. Ouais, le pitch c'est ils sont enfermés et ils doivent percer sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est vraiment. Tu dis ça avec les pires facettes de être humain, et au final, en tout cas dans cette saison, les candidats qu'ils ont pris sont pas, et en fait c'est limite ceux qui, c'est pas ceux qui sont le plus insta friendly qui sont désagréables. Genre il y a un mec, je vais pas en dire trop, mais en gros il y a un mec qui a un physique banal, un peu chubby, il a 35 ans, voilà, il est pas moche mais il est pas spécialement insta friendly, on va dire, qui décide de jouer le rôle d'un mec hyper gaulé. Un gars hyper gaulé, il dit je veux jouer le mec, genre mon plan c'est de draguer toutes les filles et d'être pote avec tous les gars. Et en fait comme il est pas cette personne et qu'il a une vision très négative de ce genre de gars, il est hyper fake et hyper agressif, ouais. Genre il va draguer toutes les meufs, il les appelle babe direct, les meufs elles sont là, c'est qui ce bolosse qui vient m'appeler babe, et lui il est là, ouais je suis sûre ça lui a plu, genre complètement
à côté de la plaque.
Et même les mecs ils sont là, putain il en fait un peu trop, enfin... C'est bon, on a compris, enfin, on va tous à la gym, tu vois, t'as pas besoin de parler de la gym direct et tout. Et du coup, c'est ce gars-là qui a l'air limite un peu mesquin parce qu'il se moque des gens insta-famous, ouais. Mais parce qu'il pense qu'ils sont débiles, en fait. Ouais. Et parce qu'il les méprise un peu. Alors que lui, il est dans un milieu, genre, il est artiste, il va à l'opéra et tout, machin. Tu te dis, bah ouais, mais en fait, t'es en train de jouer une caricature et les autres gens du circle qui sont plus, qui ont le physique que tu mets en scène, bah en fait ils sont pas débiles et ils sont pas,
bah oui.
Enfin ils sont pas en train de chasser les meufs parce que juste c'est des vraies personnes, tu vois, qui font de leur mieux. Et du coup ça, ça fait un peu réfléchir.
Ah, voilà. Ça fait tourner la cafetière. Hein.
J'adopte cette expression immédiatement.
Et on fait tourner les cafetières.
Je savais que ça allait en arriver là.
Le regard d'une femme qui a espéré mais contre toute attente.
Bah merci beaucoup Mimi, moi ouais. C'est vrai que vraiment j'ai trop envie de le regarder ce soir. Genre,
n'hésite pas à me live commenter,
ouais,
par
sûr.
SMS ou quoi, parce que c'est ma passion. Okay, dis-moi tes préf et tout, j'ai trop hâte.
À toi Kalindi, c'est quoi ton gros kiff?
Moi mon gros kiff, je suis trop contente, c'est vraiment un gros kiff. Avant-hier, j'ai enfin été voir le spectacle, le nouveau spectacle d'Edouard Baird. Et c'était la meilleure chose.
Quelle chance.
Edouard Baird, il y a quelques mois, a commencé un spectacle qui s'appelait Lucubration d'un homme soudain frappé par la grâce. Très Edouard Baird.
Tellement Edouard Baird, ce titre.
Au théâtre Saint-Antoine à Paris, c'est-à-dire à 6 minutes de notre travail. Ouais. Et en fait, le spectacle s'est arrêté, puis il a repris, voilà. Et donc là, il reprend, je pense, pour 2 mois, un truc comme ça, et il va se réarrêter, normal, quoi. Et donc, j'y ai été, et c'était fantastique. Et en fait, au-delà du... Donc, j'ai commencé par parler du spectacle. En gros, les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce, c'est l'histoire d'un...
Il n'y a pas un raccourci comme les Marseillais Sud-Africa, tu sais, c'est LMSA et...
Et je vais faire comme si j'avais pas entendu ce parallèle qui me semble incongru. En fait, c'est l'histoire d'un comédien qui s'est fait la malle de son propre spectacle parce qu'il y a un gars dans la scène qui l'a mal regardé, dans le public, qui l'a mal regardé. Et donc il dit, mais il était là, il aimait pas ce que je faisais. D'un coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi le théâtre?
Une réaction mesurée, digne de Kalindi, finalement.
Et du coup, ce comédien fuit la scène pour aller se réfugier dans un autre théâtre, qui est donc le théâtre Saint-Antoine, où il fait apparition au début du spectacle. Et il monte sur scène, il dit voilà, bon bah désolé de squatter, mais j'ai fui ma scène et tout, je viens me réfugier ici parce que j'ai vu qu'il y avait un bar. Donc sur la scène, il y a juste un bar et un gars qui est là et qui va interagir régulièrement avec Edouard Baird.
Et en fait, ça va partir en espèce de vagabondage intellectuel. C'est les pensées d'Edouard Baird, comme ça, un peu jetées. Et en fait, au début, tu te dis que ça va être du n'importe quoi. Et en réalité, t'as vraiment un fil rouge. Et en fait, tu sens que c'était prétexte, cette pièce, pour Edouard Baird à parler des auteurs qu'il aime. Donc, il va déclamer du Romain Gary. Il va parler de Musset, il va parler de plein de gens, et du coup t'as du Edouard Baird qui fait son Edouard Baird, et t'as Edouard Baird ultra sérieux qui va s'asseoir à une table et faire semblant d'écrire un roman. Il va se mettre dans la peau des écrivains qu'il adore et qu'il adorait quand il avait 15 ans, d'après ce qu'il raconte lui-même. Et c'est hyper bien, en fait, dans la construction du spectacle. Ça se veut ultra libre et à la fois tu sens que c'est ultra bossé. Et en fait, il a eu que quelques semaines pour écrire son spectacle. Et ça lui ressemble, voilà, ça lui ressemble. C'est un peu.
Et pourquoi il a eu que quelques semaines?
Eh ben, je sais pas exactement, mais je sais que, en fait, je sais plus qui. Alors là, ça va être.
La moitié.
J'avais pris des notes. Attendez.
On ne sait pas. Mais il a été missionné d'écrire ce spectacle, en fait, et il s'est dit, bah tiens, je vais essayer de le faire.
Missionné pas.
Je sais pas, putain de merde, pourquoi tu me poses des questions?
Quelqu'un l'a obligé.
Et donc, ça donne. Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce, c'est aussi drôle que c'est déstabilisant et que c'est triste. Il y a des moments où j'ai eu, enfin pas triste, mais ultra émouvant. Il y a eu plein de passages où j'ai eu les larmes aux yeux parce qu'en fait, il se raconte lui, mais ce qu'il raconte, c'est finalement assez universel. Il parle de ses angoisses et je savais pas qu'Edouard Baird était un personnage aussi angoissé. Genre,
ça m'étonne pas du tout.
Ah ouais, c'est écrit sur son front.
Non, mais
vraiment,
c'est peu étonnant. Ouais. Mais si tu veux, c'est pas un truc qu'il exprime ni à la radio ni dans ses films. En général, il y a des personnages assez désabusés. Mais là, tu vois, il balance des bribes de je suis quelqu'un de dépressif, tu vois. Et il y a un gimmick qui revient tout le temps dans le spectacle, c'est le téléphone. Et un téléphone qui sonne et il décroche, en fait, c'est censé être un faux téléphone. Et pourtant, il y a toujours vraiment quelqu'un au bout du fil. Enfin, c'est complètement con. Et en fait, à un moment donné, il décroche le téléphone et il dit « Mais personne ne va bien, monsieur, personne !» Et c'est très drôle parce que c'est vrai, personne ne va vraiment bien. C'est le moment super... positif de ce mais non, donc en fait t'as des passages, ça commence par être ultra drôle comme Edouard Baird sait si bien l'être, et ça tombe dans les grosses réflexions intellectuelles et existentielles, ça redevient drôle. Et en plus il parle de plein d'auteurs que j'adore et que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, donc ça m'a particulièrement touchée. Et en fait ça faisait longtemps que j'avais pas été au théâtre. La dernière fois c'était l'année dernière, où j'avais vu deux pièces, Edmond qui avait été primé, qui avait eu un Lumière de Molière, et j'avais vu surtout le Cyrano de Bergerac de Toreton, qui est un comédien que j'adore, il pourrait rester le beau teint, que j'irai quand même au théâtre. Et en fait, ce Cyrano de Bergerac durait 3h30, il avait transposé l'intrigue dans un asile psychiatrique, c'était hyper intéressant, c'était franchement dingo. Et ça faisait donc presque un an et demi, je crois, que j'avais pas foutu les pieds au théâtre, alors que c'est un endroit où j'allais tout le temps quand j'étais gamine. Ma mère m'en met tous les dimanches, on allait au kiosque à la Madeleine à Paris, c'est un endroit où on peut avoir des places à pas cher au dernier moment. Et ma mère, qui est une passionnée de théâtre et une ancienne comédienne, m'a traînée dans tous les théâtres parisiens, dans toutes les bouffes parisiennes et tout. Et c'était vraiment une passion que je partageais avec elle. Donc, le fait de me rendre compte que ça m'avait manqué, ça m'a vraiment fait un truc. Genre, hier, quand ça a commencé, mais surtout quand ça a terminé, je me suis dit, waouh, c'est un rendez-vous culturel qui m'avait carrément manqué. C'est-à-dire qu'à force de d'aller au cinéma parce que c'est mon travail, j'ai complètement oublié que ce que je préférais, c'était le spectacle vivant, quoi. Et du coup, vraiment, avant-hier, c'était ultra fort. Et j'étais trop contente parce qu'à un moment, il parle de Guignol. Et ça m'a rappelé que Guignol, donc, c'est un spectacle de marionnettes. Et tout le monde connaît globalement.
T'as les rêves de plus en plus fraîches. Ouais. Hein, MK, là, vraiment.
Et oui, parce que je vais vous parler de mon enfance. Et ça m'a rappelé que quand j'étais petite, et donc j'ai pleuré à ce moment-là pendant le spectacle, ça m'a rappelé que quand j'étais petite, pour mes 4 ans, ma mère, elle m'avait emmenée comme tous les dimanches voir Guignol. Et elle avait emmené toutes mes copines. Et en fait, on s'était assises et tout, le spectacle avait commencé. Et là, Toto, il venait sur scène et disait « Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nicolas et de Kalindi. » Et j'étais là « Mais comment il le sait ?» Et genre pendant des années après, ça m'est resté, pendant toute ma jeune enfance, c'était « Mais comment Toto a-t-il su que c'était mon anniversaire ?» Toto est-il un personnage omniscient, c'est Dieu, c'est, on sait pas qui c'est. Et donc Edouard Baird parlait de ça, et en fait il y avait tellement de références qui me rappelaient moi mes premières amours, que franchement j'ai passé un moment incroyable. Et même si on n'est pas fan de théâtre et qu'on n'est pas fan de littérature classique,
et de dépressifs qui viennent raconter leur vie sur scène. On peut aller voir ce spectacle pour plein d'autres choses parce que c'est vraiment d'une drôlerie rare. C'est ultra bien écrit et c'est pas chiant une seule seconde. C'est-à-dire, ça reste un type qui raconte sa life en étant zinzin, donc ça peut pas être ennuyeux. Et aussi, je voulais souligner que dans les théâtres, on remarque que les populations qui fréquentent les établissements sont globalement vieux du cul. Et moi, c'est ce que j'ai tout le temps à ma mère quand j'étais petite. Je disais, putain, mais il y a que des vieux. Elle me disait, mais oui, parce que, enfin, en vrai, les gens, ils n'emmènent pas leurs enfants petits au théâtre, tu vois. Et les adolescents vont moyen au théâtre, je pense. Et donc, c'est souvent des vieux culs. Enfin, des vieilles personnes. Et
qui possèdent un vieux cul, du coup. Ils l'ont changé depuis.
C'est vrai, c'est possible. Mais en tout cas, avant-hier, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de jeunes. Et je me dis qu'en fait, Edouard Baer continue à plaire alors qu'il a quand même un certain âge. Et que ça fait un bout de temps qu'il ne fait plus grand-chose non plus pour la jeunesse. Avant, il était à Canal et tout. Mais aujourd'hui, il est surtout réalisateur et il faisait de la radio. Donc,
Il est souvent au Burger Quiz, là. Peut-être que ça a relancé un peu. Mais je pense qu'il a eu des rôles tellement iconiques, notamment Mission Cléopâtre, que tout le monde a de l'affection et de l'amour pour Edouard Baer, tu vois.
C'est vrai.
Je connais personne qui n'aime pas Edouard Baer.
Non, c'est impossible.
Non plus.
Personne ne m'a jamais dit « Ah non, Edouard Baer, j'aime pas. »
Ouais, c'est impossible.
Je sais pas, ça doit être c'est très français, quoi. Tu peux pas ne pas aimer Edouard Baer.
Non,
c'est
vrai. Il est
adorable. Ne m'envoyez pas de DM si vous n'aimez pas Edouard Baer. Ça ne m'intéresse pas comme information. Aimez Edouard Baer.
Mais moi, je suis hyper jalouse de toi, Kennedy. Voilà.
Globalement,
mais
j'avais
que tu peux t'acheter
juste
une place. Hein.
Bah ouais, mais il me semble qu'elles sont assez chères.
Non, en vrai, franchement, ça va. C'est des places de théâtre. C'est un investissement, tu vois. Les places, je crois, elles commencent autour de 35 euros, je crois, ou 40, je sais plus.
Ah,
mais
okay.
Oui, mais le problème, c'est que c'est des strapontins, donc c'est un peu chiant. Ou alors, t'es en corbeille, mais quatrième étage. Donc, c'est un peu relou. Pour des bonnes places, il faut compter entre 50 et 80 balles, je crois. Donc, ça commence à faire un petit budget. Mais en réalité, c'est le prix d'un spectacle. Oui.
Non, j'allais dire, on est à une semaine de la Saint-Valentin. T'as une semaine pour te trouver un gars.
Donc, ouais,
lui suggérer de t'inviter voir Edouard Baer pour la Saint-Valentin.
Tu peux faire, ouais, tout à fait. Et moi, j'ai été
ça
dans.
Ça se joue, hein, ça se tente.
Si vous voulez aller voir Edouard Baer au Théâtre Saint-Antoine à Paris, je vous conseille.
En
deux secondes. Deux secondes, je vous conseille d'aller avant dîner à la Quincaillerie, qui est vraiment. Qui jouxte pas le théâtre, mais qui est pas très loin. Et qui est délicieux. Et l'autre jour, j'ai fait le combo. J'ai été manger du poulpe, un plumet ibérique. Et ensuite, j'ai été voir. J'allais dire Antoine Daniel, pas du tout. Edouard Baer.
C'est une autre soirée, je pense.
Autre soirée, ouais.
Et cela dit, dépressif aussi, comme ça marche.
Ouais. Oui.
Et ben, voilà. Bah super, merci beaucoup Kalindi, ça donne trop envie d'aller le voir. Je pense que je vais y aller. En vrai, si j'ai.
T'as pas un Lydia dans la description de la soirée qui fait.
Alors, envoyez-moi des Lydia.
Ah ouais.
J'aimerais qu'un jour on soit sponsor par Lydia.
Moi j'aimerais qu'un jour on soit sponsor par Edouard Baer.
Oh, j'aimerais qu'Edouard Baer fasse un LMK.
Ouais, bah t'inquiète, que je crois qu'on voudrait qu'Edouard Baer fasse une télé-réalité, genre. Ouais.
Juste qu'il soit là.
Vrai qu'Edouard Baer parce qu'il est marseillais.
Ouais.
Mais en parlant de ça, on a découvert l'autre jour avec Kalindi que Fabrice Lucchini adorait les Marseillais.
Oh. Et je savais que c'était un homme de goût.
OB.
Et mais oui.
Comme vous.
Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit oh, c'est génial. Alors j'ai pas compris les enjeux.
Mais ces corps là, c'est de la télé de corps, quoi.
Je l'adore. Ah
oui, c'est vrai qu'ils sont pas très habillés, les Marseillais, donc ça se
on
tient.
On l'adore de A à Z. D'ailleurs, il fait un nouveau spectacle que je vais m'empresser d'aller voir. Tout
mais
pareil.
Oui, mais
et
oui.
Et ben, emmène Martineau, elle sera pas jalouse comme ça.
C'est vrai.
Emmène ta fille. Ensemble. C'est quoi ton gros kiff, Alix Martineau?
Eh bien, mon gros kiff, eh bien, vous l'aurez entendu dans l'introduction de ce podcast. LMK 78 est sponsorisé, oui.
Amazing.
Ouh,
trop bien.
Ah ouais.
Merci au pacte.
Ah mais c'est vrai que c'était ça.
Mais oui.
C'est pour ça que je pouvais pas parler d'Alien Crystal Palace. C'est un autre film. Ah mais
oui.
Ouais, autant pour
puis il y avait aussi Nicky Larson.
Ça faisait beaucoup de films. Ça.
Merci le pacte de soutenir LMK. Et donc je vais vous parler de La Fille au Bracelet. Vous êtes prêts?
Ah oui. Oui, Mercaster.
Dis-nous tout. Alors, c'est vraiment... vous allez comprendre pourquoi c'était ma passion. C'est l'histoire d'une jeune adolescente de 18 ans et qui est assignée à résidence chez ses parents. Donc, elle a un bracelet, donc elle ne peut pas quitter chez elle. Et en fait, on apprend tout au début, je ne vous spoil pas du tout, qu'elle est accusée... Un bracelet électronique. Voilà. Oui.
Sinon, un bracelet de cheville avec des coquillages.
Ça ne t'assigne pas à résidence, non. Voilà. Donc, et on apprend tout au début qu'en fait, c'est une ado accusée d'avoir tué sa meilleure amie. Et que deux ans après les faits, parce qu'elle l'a fait, enfin, elle l'a fait ou pas, il y a deux ans, donc quand elle avait 16 ans, quand elles avaient 16 ans toutes les deux, et deux ans après les faits, le procès commence, et donc le film s'ouvre là-dessus, sur ce début de procès, et sur toutes les influences, enfin, toutes les conséquences qu'il va avoir sur elle et sur sa famille. Et c'est ultra intéressant de voir une famille comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, la famille, quand t'es accusé d'un truc aussi grave? Pendant deux ans, ça fait deux ans qu'ils vivent avec ça. Et voilà, jusqu'où ils la soupçonnent ou pas de l'avoir fait. Enfin, c'est super bien. Donc, il y a des acteurs qui sont incroyables. Il y a Roche Dizem qui joue le papa, Chiara Mastroianni qui joue la maman. Et c'est deux personnages ultra différents puisque le papa, voilà, est vraiment le pilier de sa fille. Il décide de se mettre une carapace et de la soutenir quoi qu'il arrive et tout. Alors que Chiara Mastroianni joue une mère un peu effacée qui, en fait, a accepté le fait qu'elle ne pouvait pas supporter ça, donc elle a accepté le fait qu'elle n'irait pas au procès, par exemple, et donc elle pourrait pas supporter ça, et elle aime pour autant toujours sa fille, et elle lui dit, j'espère que tu comprends, mais je peux pas faire ça, en fait. Et
moi aussi, ma daronne, elle vient pas à mon procès, ouais, alors j'ai 18 piges, mais bye, j'ai plus de daronne, quoi, vraiment.
Mais après, ouais, elle est toujours là, tu vois, elle est toujours présente.
Oui.
Mais et en fait, elle est dans une forme d'acceptation de son déni de, non, ma fille, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, et puis il y a aussi son petit frère à cette jeune femme là qui s'appelle Liz, qui lui fait des vannes. Alors du coup, quand tu seras en prison, je pourrais avoir ta chambre. Enfin, tu vois, c'est
on l'adore.
Bah ouais, parce qu'il a 10 piges, tu vois. Donc en fait, depuis qu'il a 8 ans, il baigne là-dedans. Donc c'est ultra bizarre et en même temps ultra intéressant de plonger complètement au cœur de cette famille qui est détruite par un événement aussi dramatique que un procès pour meurtre, quoi. Enfin, c'est atroce, vraiment. Et en même temps, vraiment très intéressant. Et oui, c'est un très très bon film. Il a été réalisé par Stéphane de Moustier, et dont la sœur joue aussi dans le film. Anaïs de Moustier joue l'avocate générale. Donc, et en fait, elle est ultra virulente et elle est beaucoup dans le slut-shaming. Et c'était ultra étonnant venant d'une jeune femme avocate. Et en fait, j'ai fait l'interview, enfin, j'ai conduit l'interview de Stéphane de Moustier et Anaïs de Moustier cet après-midi, qui sera sortie à l'heure qu'il est. Et donc, en fait, elle a expliqué que, enfin, c'est lui qui a expliqué que lui, il s'était beaucoup inspiré des procès qui avaient eu lieu, enfin, qu'il était allé observer, et qu'il avait remarqué que les avocates les plus virulentes et les plus shameuses, en fait, à ce niveau-là, c'était des jeunes femmes, et que c'était ultra étonnant, et qu'en fait, c'était parce que les jurés, en général, sont des gens plutôt masculins, plutôt vieux, et qu'en fait, elles se servent de ça pour se retourner contre donc cette jeune femme. C'est, enfin, vraiment,
ouais, en
la
gros,
façon...
elles disent que le jury... Parce qu'elle pense que le jury pense, voilà, mais exactement. C'est pas forcément son opinion. Mais bon, c'est un peu moche d'en jouer quand même. Mais
c'est ça,
un job d'avocat, quoi.
C'est un job d'avocat qui est hyper difficile. Et Anaïs Desmoustiers disait, j'ai jamais joué un rôle comme ça. Et c'était super difficile pour moi, qui, en tant qu'Anaïs, aime le personnage de Liz, la fille qui est accusée du meurtre de sa meilleure amie. Elle l'aime, et pourtant, elle était obligée de mettre une certaine distance entre elle et la jeune actrice, donc Melissa Gerst, pour rentrer dans son rôle. Mais d'ailleurs, je voulais parler aussi de Melissa Gerst, qui est c'est sa première apparition au cinéma. Donc ça a été un casting, elle a répondu sur Facebook, enfin voilà, ils l'ont trouvé comme ça. Et donc c'est sa première apparition, elle est mais extrêmement juste et très illisible. Donc en fait, ça te fait te poser des questions tout le temps, tu te dis mais elle est coupable ou non, et tu changes d'avis 40 fois pendant le film. Et c'est ça qui est ultra bien dans les films de procès comme ça, où il y a plein de rebondissements. Et enfin, ouais, moi j'adore les films de procès, et surtout, ça met des mots super crus sur une vérité assez glaçante et qui est difficile à entendre. Et franchement, c'est trop bien comme film, j'ai tellement aimé. Ça sort, du coup, c'est sorti à l'heure où le podcast est sorti, il est sorti le 12 février. Donc voilà, je vous encourage vraiment à venir le voir au cinéma, parce que ouais, j'étais à fond, quoi.
Ça a l'air trop bien.
Ouais, c'est trop trop bien, et rien que pour voir cette jeune actrice.
Mais c'est français en plus.
Oui.
Et
c'est trop cool.
Concours.
Oui. Et c'est à Nantes.
Exactement. Ça se passe à Nantes. Alors moi qui suis habituée aux films parisiens et nantaises, bon bah maintenant je commence à reconnaître Paris et tout dans les films, donc ça me fait plaisir. Je me dis
c'est
ah
bien.
Je suis déjà pas
le Sacré-Cœur et tout, c'est bon.
Non mais, non, mais tu sais certaines
souvent,
rues tu
y
fais
un truc pointu au front par la
mais
fenêtre.
Mais non mais tu sais certaines rues que tu reconnais, tu fais ah ils ont tourné là, oui j'ai oui. un bar à côté, tu vois.
Notre-Dame mais ça a changé.
Et là en fait le film donc à un moment ils se rendent au palais de justice et là je me dis mais c'est le palais de justice de Nantes, parce qu'en fait, le palais de justice nantais est super particulier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le réalisateur Stéphane de Moustier l'a choisi. Je lui ai demandé, hein, il me l'a dit.
En tant que
tu l'as pas inventé cette info.
Non, je l'ai pas du tout inventé. Parce qu'en fait, c'est un palais très moderne, très haut, très noir. Et à l'intérieur, tout est rouge. Et donc, ça donne un côté super moderne et beaucoup de profondeur et de caractère au film.
Et de drame aussi.
Et de drama.
J'avoue, l'architecte, il était là. Personne va être serein ici, anyway. Autant y aller à fond. On va pas les apaiser, tu vois. C'est noir et rouge.
C'est juste Claude Frollo, quoi, qui règne sur le...
Non, mais c'est ultra impressionnant. Et c'est un magnifique palais de justice. Et je l'ai reconnu tout de suite dans le film. J'ai fait quoi ? Ils sont à Nantes ? Et alors là, bon,
mais toi,
bah,
t'es allé au palais de justice de Nantes ?
Bah, c'est sur l'île de Nantes. Ah. Et donc, sur l'île de Nantes, il y a mes bars préférés. Et
ah,
donc,
voilà !
C'est comme ça que tu t'es retrouvée au palais de justice, Alix Martineau. Donne-nous les vrais.
Non, je suis jamais rentrée à l'intérieur, en revanche. Et franchement, j'aurais beaucoup aimé, parce que là, je pense que ça va être une de mes nouvelles résolutions d'aller voir un procès, parce que c'est tellement intéressant. Enfin, vraiment.
Alors, ça dépend. Moi, j'avais été au collège voir un procès. C'était un agriculteur qui avait planté des pêchers trop près du.
Ah oui, bon,
du
bah,
verger de
procès.
Pêche de son voisin. Et du coup, ils arrêtaient pas de s'embrouiller.
Et
c'était genre.
Et tout.
Mais c'est Kaamelott.
Mais même pas, c'était même pas marrant, c'était juste chiant. Et c'était, il y a en plus, il y a genre 6 ans, tu vois, parce que comme c'est pas grave, la justice, elle est pas en mode, elle est en mode, c'est pas urgent. Et du coup, il parlait d'un péché qui était planté trop près d'un autre il y a 6 ans. J'étais en 3e, j'étais là. Qu'est-ce qui se passe? C'est horrible.
Mais même
c'est
ça,
trop
moi,
chiant.
J'adore. Tu sais quoi? Moi, j'adore. J'adore les petits. J'adore les. Rien que les journaux, tu sais, hyper locaux, qui parlent des petites affaires comme ça. Ou quand j'allais chez mon grand-père et ma grand-mère, on avait toujours le voisin là, le tonton Jean, qui venait et qui se plaignait des arbres là, ses voisins qui peuvent pas couper les arbres. Et il est parti en justice contre eux parce qu'en fait. Bon, je sais pas, il avait rien à faire de ça.
Ah ouais, le Émile Zola.
Ouais, non, mais vraiment.
J'aimerais être enquêtrice, toi, en fait.
Ouais, j'aimerais être enquêtrice dans les petites bourgades comme ça.
Moi, j'ai été enquêtrice, je te l'ai raconté la dernière fois. À jeune, j'ai été enquêtrice. J'ai cru pendant très longtemps que des amis de mes parents cachaient Ben Laden, en fait, dans la cave. Et j'avais vraiment un dossier avec ma pote Louisanne, un dossier énorme avec plein de coupures de journaux avec la tête de Ben Laden et tout. Parce que, bon, bref, très longue histoire. Mais pendant 2 ans, on a été convaincus qu'il cachait Ben Laden et genre, on a monté un dossier, on sait tellement de choses sur Ben Laden.
Vous vouliez les vendre après? Vous vouliez
non,
dire aux flics, genre, c'est on les a, voilà
on
les preuves.
Voilà, regardez, Ben Laden est là, on était très préoccupés par les
comment
attentats.
Comment t'as réagi quand t'as su que peut-être vous aviez fait fausse route?
Bah, le temps avait passé, j'étais devenue un peu plus.
un peu moins zinzin. Différemment zinzin. D'accord. Waouh. Wow. Ouais.
Non, mais voilà, bah, du coup, écoutez, je vous encourage vraiment à aller voir La fille au bracelet. C'est super. C'est d'ailleurs inspiré d'une histoire vraie puisque ça part d'un fait divers argentin. Donc voilà, mais c'est vraiment très très bien et ça se concentre sur voilà les conséquences sur une famille nantaise. Et ce qu'il disait le réalisateur, c'était intéressant parce qu'il disait on croit toujours que les faits divers ça n'arrive que aux autres et puis surtout à des gens un peu zinzin, tu vois un peu. Et là, c'est une famille bah plutôt à l'aise, CSP+, ils ont une grande maison et tout. Et enfin ouais, c'est super intéressant. Et aussi, je leur ai posé la question, je leur ai demandé, est-ce que, bah, du coup, en tant qu'avocate générale d'Anaïs Desmoustiers, elle devait se convaincre chaque jour qu'elle était coupable, Lise. Et j'ai demandé, du coup, à Stéphane Desmoustiers, est-ce que toi, tu penses qu'elle est coupable? Il fait, bah, en fait, j'ai demandé à Lise de décider, enfin, à Mélissa Gers, qui joue Lise, de décider et de pas me le dire.
Waouh, j'aime trop!
Voilà.
Et en même temps, ça m'énerve. Je me permets de faire une mini-reco parce que je pense que j'aurai pas trop d'autres occasions parce que ça me fait penser à une série que j'ai beaucoup aimée, une mini-série, mais qui est sortie à 2 ans. Du coup, je me dis, j'aurai jamais d'autres occasions de la placer. C'était une mini-série HBO qui s'appelait The Night Of, où c'était un jeune, donc c'est aux US, et en fait, les thématiques de la série, c'est à la fois une critique du système judiciaire américain qui est très expéditif et très injuste, notamment pour tout ce qui est minorité ethnique. Et justement, ce que tu disais, les conséquences d'une accusation sur la famille, où en fait, c'est un jeune gars qui emprunte le taxi de son père pour une soirée à New York. Il rentre avec une fille, il va chez une fille. prennent de la drogue, et pour lui, dans sa tête, il a fini par s'endormir sur place parce qu'il était pas habitué à prendre de la drogue, il a peut-être couché avec elle, il est même pas trop sûr. Il finit par se réveiller, et il s'en va, tu vois. Et en fait, la fille est retrouvée morte le lendemain, mais genre bien assassinée, et du coup, bah, tout le monde pense que c'est lui, et lui, il dit, ah, mais non, je suis partie, et puis, enfin, pourquoi je l'aurais tué, je suis pas comme ça, tu vois. Mmh. Il est joué par Riz Ahmed, qui en plus a des grands yeux de biche, tout noir, vraiment, t'as envie de lui donner le bon Dieu sans confession, mais t'es jamais sûr, parce que ouais. Du coup, la série suit ce que lui, il pense, donc t'as un cut, et tu le vois dehors, mais tu sais pas. Et t'as tout un truc de qu'est-ce que cette accusation a comme répercussion sur sa famille, à la fois très concrètement, du coup, lui, il est en... pas en garde à vue, mais donc aux US, t'as la jail où tu vas, et t'as la prison, enfin la jail où tu vas jusqu'à être condamné pour de bon. Ou pour les petites peines, et t'as la prison où là c'est dead quoi, c'est le pénitencier. Lui est en jail, et du coup, bah, ses parents ils sont dévastés, le taxi c'est devenu une pièce à conviction, du coup son père il peut plus bosser, donc comment il paye l'avocat, enfin c'est toute une spirale de seum.
Ouais.
Et t'as aussi le truc de est-ce que ses parents ils croient qu'il est coupable ou pas. Et il y a un moment, je me souviens, je crois, je sais plus, mais c'est un moment où il y a un micro truc dans le regard de sa mère ou dans un mot qu'elle lui dit où il comprend que sa mère elle a le doute. Qu'elle est pas sûre qu'il est innocent, et ça le ravage.
Mais c'est horrible, il est seul.
Tout en prison, il est là, putain, ma daronne elle croit que j'ai tué une meuf, enfin c'est...
Et il a une super relation avec son avocat qui est joué par John Turturro. Et moi,
c'est ça
dont je me souviens le plus.
Ouais, son avocat est un personnage très semi-dépressif et haut en couleur en même temps, un peu zinzou, qui est vraiment un genre de commis d'office, mais qui est dédié à lutter contre les injustices et les abus de justice, comme on dit. Bon, bref, il y a un mot. Les accusations arbitraires et tout, mais qui a pas beaucoup de moyens, qui a pas beaucoup d'argent, qui présente pas très bien, et du coup, t'as envie d'avoir l'espoir en lui, et en même temps, t'es là, pas gagné. Et tu sais pas s'il est censé gagner ou pas, parce que tu sais pas si le mec est coupable ou pas.
Ouais,
c'est The Night Of, c'est 6 épisodes si je me souviens bien. Ça doit être dispo sur OCS en France, puisque c'est HBO.
Ouais.
Et voilà, du coup, si La Fille au Bracelet vous plaît, The Night Of, c'est cool aussi.
Mm-hmm.
Voilà, je le place.
Merci beaucoup. Et puis, franchement, allez-y.
Tu le vends hyper bien, j'ai trop envie d'aller voir.
C'était... Enfin, franchement, j'en suis sortie, j'étais là... Bon, si vous allez le voir, les LM Crado, venez en DM me voir après sur Instagram pour parler.
T'as ce truc de j'ai trop besoin d'en parler avec des gens, personne l'a vu.
Mais pour parler de la dernière scène, j'ai trop besoin d'en parler, donc voilà.
Oh, yeah,
venez me parler, pitié. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est la fin de ce podcast.
Et
invitez-la
déjà
au théâtre.
C'est déjà la fin de ce podcast. Merci au Pacte de nous avoir soutenus dans cet épisode.
Merci le Pacte.
Merci à vous, cher LM Crado, d'être resté jusqu'à la fin. Merci à vous aussi, la Brigade du Kiff, d'être resté jusqu'à la fin. Et puis.
Ça fait longtemps que personne s'est barré manger un ramen en plein milieu du truc.
Je l'ai fait une fois, Kalindi, ok.
Ça fait littéralement depuis l'épisode 2.
Et voilà, n'hésitez pas à aller mettre vos vides bolos sur Apple Podcast, toujours en mettant 5 étoiles, à m'envoyer des jingles, des dédicaces audio.
Oui, donnez les jingles, j'en veux plus de ces longs moments.
Voilà, c'est long, c'est plus agréable. Envoyez-nous les vôtres, vous êtes si doués. Kalindi a envie de faire pipi, donc je vais abréger cette fin en attendant la semaine prochaine.
Je vais faire pipi.
Et j'étais tellement déconcentré, j'ai failli dire. Un jour, par surprise, vous mourrez.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.